micro aussi ?
Si. Si ?
Bon, alors, je vais en profiter. Bonjour à vous tous, à vous toutes, celles et ceux que je n'aurais pas encore salués. Merci d'avoir répondu à cette proposition de voyage dans les littératures du Nord et tout particulièrement en direction des jeunes et des adolescents. Au nom du Centre du Livre, je souhaite également remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille de plus en plus régulièrement d'ailleurs dans le cadre d'une convention que nous avons signée l'an dernier qui a pour but, entre autres choses, de croiser aussi les publics auxquels nous nous adressons et puis nos actions chaque fois que possible. Je rappellerai également que cette journée est organisée dans le cadre de la préparation du prochain festival Passeurs de Monde. Alors Passeurs de Monde, vous connaissez cette manifestation, elle avait lieu jusqu'à l'année dernière tous les automnes. Nous avons décidé en concertation avec les partenaires et tout particulièrement avec les réseaux de bibliothèques de la région de nous donner plus de temps pour préparer chaque édition du festival parce que je crois que l'objet de ce festival, c'est de favoriser le plus largement possible des rencontres entre des livres, des œuvres, des productions de littérature qui ne sont pas toujours les plus connues, les plus familières et les populations, les lecteurs et au-delà aussi ceux qui peuvent devenir lecteurs. Et tout cela demande naturellement beaucoup de préparation et aussi un temps de travail important avec les passeurs, les agents de transmission, les agents de liaison que vous êtes, vous, médiateurs du livre. Donc une édition tous les ans s'est rendu compte que c'était un peu difficile de à la fois concevoir une programmation et d'élaborer ce temps de préparation, de découverte aussi pour chacun d'entre nous de ces domaines littéraires, culturels, que l'on propose ensuite en partage assez largement dans toute la région. Donc nous avons décidé, en concertation avec les partenaires du festival, d'adopter un rythme biennal, donc un festival tous les deux ans. La prochaine édition aura lieu à l'automne 2012, autour du thème, je dirais, qui va nous amener vers le nord, des Flandres à la Scandinavie, donc un large, large territoire, après avoir voyagé autour de la Méditerranée à l'automne dernier. Et donc, nous disposons là de tout un temps avant l'automne 2012 pour préparer ensemble ces futures rencontres, ces échanges. Et cette journée est la première qui va s'inscrire dans ce cadre. Donc je remercie naturellement, très chaleureusement, nos deux invités, Jean-Baptiste Courceau et Véronique Soulet, qui ont accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui. Alors je les présenterai très rapidement. Véronique Soulet, vous avez été responsable jusqu'à la fin de l'année dernière de Livre au Trésor, une association qui a fait un magnifique travail justement autour des livres et de la jeunesse. Une aventure de 22 ans qui s'est malheureusement arrêtée faute de moyens, faute de carburant, là, en quelque sorte. Pas seulement, mais vous pourrez peut-être... Et pour raison politique aussi, je suis pas allée... donc vous aurez peut-être l'occasion d'en discuter, de dialoguer aussi autour de ce sujet dans la journée. Vous êtes bibliothécaire de formation. Et vous êtes également réalisatrice et animatrice sur la radio associative non commerciale, Radio Aligre, je crois, en région parisienne. Voilà, en deux mots. Mais je vous laisserai vous présenter plus précisément au cours de la journée. Jean-Baptiste Courceau, vous êtes traducteur, prioritairement, du norvégien et du danois, c'est cela. Vous vivez à Berlin. Depuis quelques années. Vous avez aussi eu des activités dans le monde éditorial, mais qui sont moins nombreuses aujourd'hui directement en tant qu'éditeur. Dans le programme, il est fait référence à une collection que vous avez d'ailleurs dirigée au sein des éditions Gaïa et qui, il y a quelques années. Alors je crois que vous avez choisi l'un et l'autre de, non pas de transformer le programme qui a été proposé, mais d'intervenir à deux voix toute la journée, donc plutôt que d'avoir un partage des interventions entre la matinée et l'après-midi. Donc je vous laisserai expliquer un petit peu le parti pris qui a été retenu, mais ça ne modifie pas sur le fond la proposition qui vous a été faite lors de l'envoi des programmes. Un petit mot également pour remercier Christine Drugman et la librairie La Belle Aventure qui assurera une présentation d'ouvrages à partir de midi, je crois. Hein, donc vous pourrez aussi découvrir certains ouvrages, les acheter, etc. Je m'excuse auprès de vous de ne pouvoir malheureusement rester participer à cette journée, mais l'équipe du centre qui est représentée avec quatre personnes ce matin sera présente et va me remplacera tout à fait bien jusqu'à ce soir. Je remercie tout particulièrement deux personnes de cette équipe. Sylvia Loiseau, alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne l'ont pas vue ou l'ont perdu de vue pendant quelques mois, Sylvia Loiseau qui est revenue dans notre équipe à la fin de l'année dernière après un congé pour agrandissement familial en quelque sorte, donc s'occupe tout particulièrement de la vie littéraire, donc des relations avec les auteurs, mais aussi tout le suivi des manifestations, l'accompagnement des manifestations en région. Elle est très impliquée, bien sûr, dans la, comme toute l'équipe, dans la construction du Festival Passeurs de Monde. Donc voilà, si vous avez besoin d'échanger, je pense Mireille à l'instant, Sylvia est l'interlocutrice pour tout ce qui concerne les manifestations en région, et Bruno Essarbudaï, qui est arrivé dans l'équipe du Centre du Livre cette année, début janvier, et qui a en charge la responsabilité des relations avec les bibliothèques et tout ce qui concerne le patrimoine écrit dans la région. Voilà, donc ce sont deux interlocuteurs. Il y a également, toujours à l'accueil, Virginie Gomez, qui s'occupe de la communication, du site internet, des formations aussi qui sont proposées comme cette journée, et Solène Ganteil, que vous connaissez aussi certainement, plusieurs d'entre vous, qui s'occupe, entre autres choses, de la coordination du festival Passeurs de Monde. Voilà. Je vous cède très vite la parole. Bruno, Sylvia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? En tout cas, vous êtes à la disposition des uns et des autres dans la journée. Merci encore, et puis bonne journée.
Oui, merci.
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que je peux dire au nom de Jean-Baptiste et moi que nous sommes ravis d'être là, et toujours ravis de voir qu'il y a autant de monde qui peut s'intéresser à la littérature nordique. Alors effectivement, vous avez eu un programme qu'on a un petit peu changé. On s'était même quasiment dit qu'on aurait pu inverser les propositions avec Jean-Baptiste Courceau, qui est, je ne vais pas mâcher mes mots, mais je pense qu'il est le plus fin connaisseur des littératures nordiques pour la jeunesse à ce jour, et que donc il m'était à moi assez difficile, avec mon maître à penser ou presque à côté de moi, de vous présenter les littératures nordiques de mon point de vue.
Et inversement, il m'était assez difficile de présenter le point de vue des romans adolescents avec la personne qui, à mon sens, en France, connaît le mieux à la fois toute la production, qu'elle soit française ou étrangère, de jeunesse, et qui a un regard aussi juste et aussi profond sur ce genre littéraire-là.
Donc après s'être lancé des fleurs, voilà. On vient de le faire, on va arrêter. Jean-Baptiste et moi, on a travaillé, enfin en tout cas notre rencontre à tous les deux, elle date d'il y a une dizaine d'années. En fait, quand le Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil a organisé un salon, une édition tournée autour des littératures nordiques, à l'occasion de laquelle Jean-Baptiste a été sollicité, tu diras peut-être mieux quoi, mais ça fait rien, je vais le dire, a été sollicité pour faire présenter une bibliographie, un ouvrage autour des littératures nordiques pour la jeunesse, qui est celle-ci, que vous voyez peut-être pas de loin, qui s'appelle Lumière du Nord, donc qui date de 2000, et qui est à la fois simple et très riche, et qui donne des lignes directrices. Donc je vous le cite déjà, parce qu'évidemment, l'objectif de la journée, c'est que vous repartiez avec des données pratiques. Donc celle-ci, elle a été éditée, donc Lumière du Nord, par le Salon du Livre à Montreuil. Et j'imagine qu'ils en ont encore en stock et que vous pouvez leur demander, même si c'est marqué 20 francs derrière, c'est-à-dire que ça date un peu. N'empêche, elle est toujours valable. Après, avec Jean-Baptiste, on a eu l'occasion de travailler ensemble autour de la littérature plus précisément norvégienne pour la jeunesse, en travaillant avec l'ambassade de la Norvège à Paris, on y reviendra, à l'occasion de laquelle nous avons monté à la fois une journée d'études sur la littérature norvégienne pour la jeunesse et publié une brochure que vous n'avez pas dans vos pochette parce qu'elle est bien lourde. C'est des princes et des grands frères, sur laquelle brochure sur laquelle on va bien s'appuyer cet après-midi aussi, enfin aujourd'hui, qui est une brochure qui a été réalisée il y a 3 ans par Jean-Baptiste, l'ambassade de la Norvège et Livre Trésor, donc il y a 3 ans, qui vient juste d'être réédité, réimprimé, mise à jour ce mois-ci à l'occasion du Salon du Livre, cette fois-ci par la seule ambassade de Norvège, étant donné que Livre Trésor n'existe plus, mais qui a entre autres l'intérêt, bon d'abord d'être intéressante, je pense donner plein de points de vue intéressants, mais surtout et entre autres d'être gratuite, donc que vous pouvez aussi vous procurer. Enfin, je dis aussi, je ne sais pas si Lumière du Nord est gratuite au jour d'aujourd'hui. En tout cas, celle-ci l'est, et l'ambassade vous l'enverra sans souci. Vous trouverez l'adresse dans vos dossiers, ou en tout cas, on vous la donnera, vous la trouverez sur le net.
Et en autant d'exemplaires que vous le souhaiterez.
Oui. Sauf si tout est parti au Salon du Livre, oui. Mais je ne pense pas. Donc en fait, cette journée, elle est un peu plus conçue.
Je peux ajouter juste un mot, Véronique ? Oui. Et puis, ça fait, comme Véronique l'a dit, hein, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, et on aura l'occasion, juste en guise d'introduction, on a travaillé aussi ensemble, on aura l'occasion sans doute, hein, Véronique, d'en reparler cet après-midi. On a organisé ensemble, c'était quand, il y a 6-7 ans, un atelier d'initiation à la traduction à partir d'une petite série de livres que j'avais traduits pour l'école des loisirs, dans une classe de CM1, CM2, c'était à Bobigny, dans un cadre très particulier. Les 3/4 de la classe étaient composés d'enfants d'origine étrangère, et l'idée était aussi, avec cet objectif d'éducation populaire et avant tout de faire prendre conscience aux enfants qu'ils étaient bilingues. Voilà. Mais on en reparlera cet après-midi, je crois.
Donc du coup, on va plus concevoir cette journée comme sur forme d'échange et plutôt de questions. Je vais peut-être presque jouer à l'ingénu de temps en temps. J'espère que tu ne me disputeras pas trop. Jean-Baptiste, ça lui arrive.
Jamais. Hein,
que si lundi, tu m'as dit que je posais des questions à la table ronde lundi sur les tabous. Non, mais c'était...
Oui, mais...
On y reviendra, c'est pas grave du tout. Donc on va peut-être partir un petit peu sur des généralités, présenter à la fois les pays nordiques, on entend par les pays nordiques, la question de l'édition, de la production, des quelques chiffres ou pas, les questions de la traduction, avec un petit focus peut-être sur les bibliothèques dans les pays nordiques, pour ensuite s'intéresser plus avec les finesses que ça imposera selon les pays, mais ça Jean-Baptiste le dira, qu'il y a des pays qu'il connaît mieux que d'autres, sur l'histoire de la littérature de jeunesse et la littérature de jeunesse aujourd'hui, ses spécificités et ses caractéristiques dans les pays du Nord. Pour s'arrêter ensuite sur et vous présenter les auteurs qui étaient présents au Salon du Livre de Paris, vous avez eu dans votre dossier un petit dossier qui présentait ces 17 auteurs. Ça nous donnera l'occasion de revenir un peu sur cette production-là, surtout qu'il y avait des auteurs qui représentaient des pays qu'on ne connaît absolument pas en France, je pense entre autres au Groenland. Et puis ensuite, on vous propose un focus plus particulier sur la Norvège et sur des auteurs illustrateurs, romanciers ou bien auteurs d'albums pour la jeunesse. Et ensuite, vous proposez les coups de cœur, quelques-uns des coups de cœur qui ont été aussi regroupés dans votre dossier. J'espère qu'on tiendra dans les temps et qu'on ne sera pas trop bavard.
Parce qu'on l'est tous les deux.
Parce qu'on l'est un petit peu tous les deux. À l'occasion de la parution d'un des ouvrages qui a paru vraiment juste pour le Salon du Livre, Dame Cochon, Messire l'Ours, le lynx chanteur, d'un auteur dont je dirais très mal le nom, je suis très nulle en langue, Eira Savisaari, auteure finnoise, qui a été traduit par Emmanuel Lavoie, qui sera là à... Non, elle viendra pas finalement ? Alors, on espérait. Bon, bah alors, c'est du passé, ça aurait pu, qui serait venu présenter le travail qu'elle a pu faire.
Elle travaille sur le prochain, c'est pour ça qu'elle n'est pas là.
Oui.
Voilà.
Voilà. On va dire ça. Et donc, elle aurait aussi parlé un peu des éditions du Petit Lézard ou du Lézard Noir, qui fait un travail formidable autour de l'œuvre de Tove Jansson. Et ensuite, nous continuerons donc, en essayant de tenir dans les temps, matin ou après-midi, sur les collections pour adolescents, commençant par celle de Gaïa. Alors, on va commencer par quelque chose de très général. Et je vous proposerai, si tu veux bien, commencer par l'aspect géographique. En tout cas, dans votre petite brochure 17 auteurs, vous avez une carte sur la première page qui peut un peu vous aider parce que si vous êtes comme moi, pas très bon ou très bonne en géographie, et de se faire un peu une idée de ce qu'on appelle les pays nordiques, ce qu'on appelle la Scandinavie. Oui. Est-ce que c'est la même chose que les pays nordiques ?
Non. Si vous regardez ça,
tout le monde l'a pas en couleur, donc c'était. Ah.
Oui, c'est cette petite brochure là, avec tout, avec les.
Mais c'est pas grave, tu vas le dire sans.
Voilà.
Tu
bon, bref.
C'est pas grave si vous avez pas sous les yeux.
On désigne par Scandinavie, on va dire quatre pays, un, deux, trois, quatre pays indépendants. Si je pars du sud vers le nord, c'est d'abord le Danemark. Donc qui a une frontière commune avec l'Allemagne, ensuite la Suède, la Norvège et enfin l'Islande. Sachant que le Groenland et les îles Féroé font partie du royaume danois, avec une indépendance différente selon les deux pays. Je ne m'appesantirai pas là-dessus. Ensuite, on parle de nord pour inclure ou plutôt la Scandinavie, vous avez aussi plusieurs langues scandinaves. Les langues scandinaves sont des langues indo-européennes de la grande famille des langues indo-européennes, donc qui comprend le français, l'italien, le grec, l'albanais, le russe, etc. Ces langues scandinaves, faisant partie de la famille germanique. La famille germanique comprenant elle-même l'allemand, l'anglais, le néerlandais, l'afrikaans, entre autres. Donc, des langues scandinaves, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je reprends, toujours en partant du sud vers le nord. Pour le Danemark, c'est le danois. Pour la Suède, le suédois. Le suédois étant aussi parlé en Finlande. C'est la deuxième langue du pays. Si vous regardez sur la carte, vous voyez entre la Suède et la Finlande, il y a les îles d'Åland, où là, on parle uniquement suédois. En Norvège, vous avez deux langues, le norvégien et le néo-norvégien, qui sont deux langues distinctes. Aux îles Féroé, vous avez aussi... Les îles Féroé ont leur propre langue, le féroïen. Et enfin, vous avez l'islandais en Islande. Donc ça fait 6 au total. Voilà donc pour ce qu'on appelle la Scandinavie stricto sensu. Ensuite, on a l'habitude de parler du Nord pour inclure donc trois populations qui ne sont pas scandinaves. Et donc qui ne font pas partie non plus de la famille indo-européenne, c'est-à-dire la Finlande avec sa langue le finnois. Alors on dit, si on veut bien parler, et nous voulons tous bien parler, nous parlons de finlandais pour désigner les habitants, tout ce qui n'est pas la langue en fait. La langue c'est le finnois et tout le reste c'est le finlandais. Un finlandais, une finlandaise, un livre finlandais, un sauna finlandais, un moumin finlandais, etc., etc., etc. Bon. La Finlande fait partie de la, si on reste toujours sur ces considérations-là, de la famille finno-ugrienne, qui comprend notamment à proximité l'Estonie et sa langue l'estonien. Les Sams. Alors les Sams, ce sont ceux qu'on appelait autrefois les Lapons. On ne dit pas les Lapons. C'est un mot à bannir de votre vocabulaire.
C'est péjoratif,
c'est ça ? C'est péjoratif, oui. C'est le terme colonisateur pour les Sams. Voilà. Donc les Sams vivent sur quatre pays, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie. Ils sont reconnus de façon différente selon les pays. Le Sam, c'est la troisième langue nationale, par exemple, de la Norvège. Ils ont leur propre parlement. Ils étaient présents également au Salon du Livre. Et le Sam, donc comme le finnois, comme l'estonien, comme le hongrois, donc font partie de ces langues finno-ugriennes. Et enfin, nous avons donc pour le Groenland les Inuits et l'Inuktitut, si je ne m'abuse, mais je pense que je fais une erreur à un moment donné. On ne dit pas donc les Esquimaux, même chose. C'est le terme colonisateur de la même manière que les Lapons. On dit les Inuits. Et vous avez sans doute lu vous avez sans doute vu passer la trilogie de Jørn Rill, le garçon qui voulait devenir un être humain. Et donc vous savez que si le titre de cette trilogie signifie donc le garçon qui voulait devenir un Inuit. Sachant que Inuit veut dire être humain en Inuktitut. Voilà. Au niveau des populations, maintenant, ce sont des pays où il y a peu de monde. Danemark, c'est 5 millions d'habitants. 5 millions et demi. 5 millions et demi, je pense. 5 millions 6, voilà. La Finlande, c'est 4 millions, on est peut-être déjà à 5 millions, hein. 5,3. La Suède, c'est 9 millions, c'est le pays le plus peuplé. La Norvège, c'est 4 millions 8. L'Islande, on doit être maintenant à 300 000, à moins 300 000, hein, à moins qu'avec la crise économique, comme tout le monde s'en va, il y en aura moins. Les îles Féroé, ça doit être 75 000, et j'avoue mon ignorance par rapport au Groenland. Voilà. Que vous dire d'autre, Véronique, j'oublie de... Hein ?
C'est la présentation générale des pays, parce que c'est toujours un petit peu flou, voilà, de faire le lien, et qu'effectivement, la question de la langue est le fil directeur.
Et juste une dernière chose, s'ils le veulent bien... Alors, les trois langues continentales, ce sont les deux langues norvégiennes, enfin, on va dire le norvégien, le suédois et le danois, s'entrecomprennent et s'entrelisent. C'est-à-dire que vous, en tout cas, s'entrelisent très facilement. Un suédois lit facilement le danois et le norvégien, et inversement. Et s'ils le veulent bien, mais ils le veulent de moins en moins, les trois peuples... Donc, suédois, danois, norvégien, s'entrecomprennent. Ce qui est une information utile pour vous, parce que dans la littérature en général, vous avez souvent, comme ça, des mots de suédois dans un roman norvégien ou dans un roman danois. Et ça peut paraître un peu surprenant que d'un pays à l'autre, on s'entrecomprenne. Voilà. L'intercompréhension est, ce serait peut-être, comme moi je parle pas assez l'anglais, hein, l'espagnol et le catalan, et encore, parce que les Espagnols ne comprennent pas les Catalans, hein, c'est ça? Non. Donc c'est pas non plus comme le Tchèque et le Slovaque, puisque là aussi, mais bon, voilà. Oui, 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 oui.
Donc on va s'intéresser un peu plus près maintenant au livre, donc à la vie du livre, donc à la fois parler des maisons d'édition de façon très générale et après avec un petit focus autour de la littérature de jeunesse et surtout sur le mode de fonctionnement de la vie du livre, avec particulièrement la Norvège qui visiblement se détache par rapport aux autres pays avec une politique très intensive et de soutien très fort à la production, oui, de livres. Oui. Donc je ne sais pas si tu peux parler de la même façon de tous les pays. On n'a pas préparé, non, à l'avance, hein, donc il y a des choses, je ne sais pas s'il a les réponses à tout, mais en tout cas sur la Suède et la Norvège.
Oui. D'abord, pour parler des maisons d'édition, nous ne sommes pas dans ces pays-là comme en France où vous allez avoir des maisons d'édition qui sont spécifiquement destinées à un genre de littérature et des maisons d'édition qui publient uniquement de la littérature jeunesse. Historiquement, toutes les maisons d'édition, qu'on soit en Islande, en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, chaque maison d'édition publie de tout, c'est-à-dire de la littérature générale, de la littérature jeunesse, des essais, des documentaires, des livres de cuisine, etc., etc., etc. Ce mouvement tend en ce moment à se modifier. Il y a notamment avec l'apparition de nouvelles maisons d'édition, que ce soit en Norvège, en Suède, au Danemark. Une toute nouvelle en Norvège, c'est Magikon. avec ce magnifique livre-là qui va paraître l'année prochaine aux éditions Albin Michel Jeunesse. Parc Vesno, André Vesner, donc qui va s'appeler Le Parc en français. Ou récemment, je ne sais pas si tu les as vus, Véronique Alvina en Suède, qui font des albums absolument magnifiques. Voilà. Mais cette cette spécialisation dans la littérature jeunesse des maisons d'édition est un phénomène relativement récent. Voilà. Ça, c'est pour le paysage éditorial. Ensuite, ta question, c'était
Donc le nombre de maisons d'édition, la production, parce qu'effectivement en France, vous le savez, on produit à peu près 10 000 titres jeunesse chaque année, même un peu plus, un peu moins selon les années. On n'est absolument pas dans ces chiffres-là, même si on regroupe tous les pays nordiques ensemble.
Oui, alors c'est bien sûr une question de population. Hein. Vous ne pouvez pas, avec 4 millions 8 habitants, il y a deux facteurs, si vous voulez. Il y a le facteur de la population qui fait que le marché n'est pas, excusez-moi d'employer des mots vulgaires, mais n'est pas extensible à l'infini. Et il l'est d'autant moins que, contrairement, par exemple, à la France, à l'Espagne, à l'Allemagne, les locuteurs et les lecteurs ne vivent que dans ce pays-là. Alors que, par exemple, la France va pouvoir exporter les livres en Belgique, en Suisse, au Canada, l'Allemagne en Autriche, en Suisse, etc., etc. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire aussi, par exemple, qu'un livre comme celui-ci coûte... c'est pas marqué évidemment, mais c'est à peu près quelque chose comme, je croyais qu'ils indiquaient le prix là maintenant, mais plus maintenant, 280 couronnes. Donc vous divisez, je sais pas calculer, moi je suis nul en maths, faut diviser par 8 pour avoir le prix. Donc je pense que c'est quelque chose comme à peu près 20 à 30 euros minimum l'album. La vie du livre aussi dans ces pays-là est très courte. C'est-à-dire que les albums, il y a une édition et après le livre disparaît. Et c'est assez rare qu'il soit réimprimé.
On a vu quand même au Salon du Livre des livres de poche, entre autres Maria Parr, qui est sorti en poche.
Oui, je parle là uniquement des albums. Voilà. Et après, les romans peuvent connaître des réimpressions. Mais en général, la vie du livre jeunesse est assez brève. Voilà. Ensuite, nous avons donc les politiques de soutien, c'est ça ? Alors, ce qu'il faut, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, et c'est très vrai pour la Suède et la Norvège, quand l'école est devenue obligatoire au 19e siècle, 1880, les États ont décidé en même temps il fallait que les enfants puissent avoir leur propre littérature. Et donc, historiquement, vous avez deux États, même si l'un n'existe pas, n'est pas encore indépendant puisqu'il dépend à l'époque de la couronne de Suède, mais vous avez historiquement deux pays qui prennent conscience qu'il va falloir apporter un soutien à la création. À l'époque, c'est la création littéraire. Et ces phénomènes-là de soutien à la création, d'une part, de prise de conscience qu'il faut que les enfants aient leur propre littérature, secondo, de soutien de cette création, de soutien de la création de cette littérature-là, c'est quelque chose qui est historique dans ces pays-là et que l'on retrouve aujourd'hui encore, aujourd'hui en 2010. Contrairement à nous, où c'est, comme je ne vous apprends rien, hein, c'est quand même très tardif, c'est les années 70. Ça commence, un phénomène qui commence dans les années 70. Ce qui peut expliquer aussi, à mon sens en tout cas, la qualité des livres. Mais bon, ça, on y reviendra, j'imagine, hein, Véronique. Ça veut dire aussi que les réseaux de bibliothèques, par exemple, sont extrêmement denses. En Finlande, par exemple, vous pouvez tout à fait prendre un livre à Helsinki, donc tout au sud du pays, et puis partir en vacances tout au nord, en Laponie, et vous avez terminé votre livre, vous le donnez à la bibliothèque du nord, vous en prenez un autre que vous allez lire pendant le reste de vos vacances et que vous restituerez une fois que vous êtes rentré chez vous à Helsinki. C'est comme si, par exemple, vous étiez en vacances à Nice, n'est-ce pas ? Nous allons tous en vacances à Nice, et moi le premier, et puis à Nice, vous dites « Oh, je vais passer à la bibliothèque, je vais prendre un livre », et puis vous retournez chez vous à Lille, on est bien à Lille, et vous redonnez le livre. Ça veut dire qu'à peu près 98% de la population a une carte de bibliothèque, et qu'on va à la bibliothèque. Oui, c'est quasiment toute la population qui va à la bibliothèque, en fait. Hein. Et l'accès à la bibliothèque est très simple.
C'est la Finlande.
Mais c'est vrai pour tous les pays.
Parce que là, il y avait un article dans Livre Hebdo la semaine dernière qui présentait les différents pays et qui dit qu'effectivement, en Finlande, c'est le taux de prêt le plus élevé et que c'est 19 livres par an par habitant. Alors, je ne sais pas quel chiffre on est en France, mais on doit être autour de 2% en France. Et donc là, 19. Donc, 2 livres par habitant, là, c'est donc 19.
Donc en Scandinavie, on va à la bibliothèque, véritablement. La bibliothèque n'est pas considérée, n'est pas considérée comme un lieu ni ringard, ni péjoratif, ni. On attend que le livre sorte en bibliothèque pour le lire, beaucoup. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Oui, la politique du soutien du livre avec le particularisme norvégien. Alors là, il faut que je fasse un peu d'histoire. Ça va me permettre de vous expliquer cette histoire aussi du norvégien et du néo-norvégien. Alors, la Norvège a perdu son indépendance au XIVe siècle. Elle est le roi de Norvège était marié à la reine du Danemark. Et la peste noire est arrivée par le port de Bergen, qui était une ville hanséatique, qui a ravagé donc la population, qui a ravagé la noblesse, la bourgeoisie, et qui, en même temps, a tué le roi. Bon, la reine du Danemark se retrouve donc reine d'un royaume de Danemark-Norvège. C'est la fin de ce pays, la Norvège. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'union de Kalmar qui va réunir les trois pays, donc Suède, Danemark, Norvège, Islande, qui est déjà devenue norvégienne au XIIIe siècle. L'union de Kalmar sera dissoute au XVIe siècle, à peu près en même temps que l'introduction de la réforme. Et le Danemark devenant un pays très colonisateur, la langue norvégienne va disparaître. C'est-à-dire que là, toute cette bourgeoisie et cette noblesse norvégienne va être remplacée par une bourgeoisie et une noblesse d'une part danoise et d'autre part allemande. Donc premier facteur qui va aboutir à la disparition de la langue. Seconde chose, le Danemark est un pays qui va être très colonisateur, et donc vous n'aurez pas en Norvège de maison d'édition, vous n'aurez pas d'université. Toute la vie intellectuelle se fera à Copenhague et non pas à Oslo, enfin qui s'appelait à l'époque Christiania. Autant de facteurs qui favorise, en fait, quand vous n'avez pas de vie intellectuelle, quand vous n'avez pas de vie éditoriale, une langue disparaît. Le principe d'une langue, c'est comme un organisme vivant, c'est de s'éteindre. Bon. 1814, la fin des guerres napoléoniennes, la Norvège doit devenir indépendante. Or, ce n'est pas ce qui se passe, la Norvège va passer sous la couronne suédoise. Mais en tout cas, on arrive peu à peu, sont posées les bases d'une conscience nationale et une volonté d'indépendance. Avec le romantisme qui intervient dans le nord de l'Europe un peu plus tard qu'en Allemagne ou en France, la Norvège va demander à deux instituteurs de parcourir le pays pour collecter les dialectes. Comme vous le savez, la Norvège a une géographie très particulière avec ses montagnes, ses fjords et donc ses régions isolées. Et malgré la disparition de la langue norvégienne, donc à l'époque on parle une espèce de danois, si vous voulez, qui avec des accents norvégiens et des écritures un peu norvégiennes, la population en tout cas parle toujours son dialecte. Et donc le gouvernement demande à ces deux instituteurs de collecter ces dialectes. Ces dialectes, avec ces dialectes, ils ont pour mission de recréer une langue norvégienne qui elle-même remplacera ce dano-norvégien qu'on parle à l'époque. Vous me suivez ? C'est pas trop compliqué ? Bon. Et ce n'est pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que les deux langues vont continuer de coexister. Aujourd'hui, le norvégien ou le bokmål, donc la langue mål des livres, book, est parlée, c'est la langue que moi je parle, et elle est parlée à peu près par 75% de la population. Le nu norsk, donc le néo, nu, nouveau, norsk, norvégien, est parlé par environ 17 à 20% de la population. Le reste de la population parlant sam, par exemple, ou d'autres langues. Bon. La nuance est encore plus... Alors, juste pour votre information, c'est même encore plus nuancé, puisque, en fait, tant le bokmål que le nynorsk ne sont que des langues écrites. Aujourd'hui encore, en 2011, les gens parlent leur dialecte. Et ils vont écrire en bokmål ou en nynorsk, ou plutôt, ils vont écrire dans une variante dialectale tant du bokmål que du nynorsk. Vous comprenez ? Vous avez par exemple la fameuse phrase « elle a jeté son linge dans la panière » que en bokmål, vous pouvez écrire de 8 façons différentes sans faire de faute, ni de grammaire, ni de syntaxe, ni d'orthographe. D'accord ? Ça pose évidemment des problèmes en traduction. J'en ai parlé, pour par exemple Maria Par, Cascade et Gaufre à Gogo, j'en ai parlé longuement dans la brochure que l'ambassade de Norvège mettra donc à votre disposition. Je m'apesantis assez longuement là-dessus parce que, d'une part, quand vous allez proposer les livres à vos lecteurs, quels qu'ils soient, vous allez voir, comme ici traduit du néo-norvégien, et donc les lecteurs vont vous demander qu'est-ce que ça veut dire. Je m'apesantis aussi parce que en termes de publication et donc de traduction, ça pose véritablement question, problème. On voit par exemple que la littérature pour la jeunesse traduite du néo-norvégien est de, à mon sens, plus grande qualité que le reste. Donc, vous avez aussi beaucoup de livres qui sont traduits du néo-norvégien en français, par rapport à la littérature générale où vous en aurez moins. Tout ce cadre historique pour vous expliquer ce qui se passe au niveau de la langue. Dans les années 60, la Norvège a une politique très libérale par rapport à la langue. Et dans les années 60, la Norvège a peur d'une seconde disparition de la langue norvégienne. Et elle se dit une disparition au profit de l'anglais, bien évidemment, ou une contamination de la langue norvégienne par l'anglais, qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura, à mon sens, jamais lieu. Juste un exemple, aujourd'hui, la langue SMS des jeunes ne se fait pas par l'anglais, elle se fait par le dialecte. Vous voyez ? Les jeunes écrivent, la langue SMS des jeunes, c'est le dialecte. Voilà. Et donc, dans les années 60, le pays se dit, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas que notre langue disparaisse une seconde fois. Et ils inventent un système assez original qui est de dire pour que la langue reste en vie, il faut que les gens puissent la parler. Si pour que les gens puissent la parler, il faut donner la possibilité à certaines personnes de l'exercer. Et donc ils vont inventer un système qui s'appelle le système de préachat. Et le système de préachat prévoit que le gouvernement préachète, donc avant publication, un X nombre d'ouvrages qui sont des ouvrages de qualité, tant en littérature générale qu'en littérature jeunesse. Et ces préachats de livres vont alimenter les bibliothèques du pays. Donc on va acheter, par exemple, je pense que pour la littérature jeunesse, c'est 1500 exemplaires, hein, c'est ça, Véronique ? 1500 exemplaires de par exemple, Cascadego Fragogo, de, par exemple, il n'y en a pas d'autres ouvrages norvégiens, là ? Non, c'est pas grave. Bref, et ces ouvrages vont dans toutes les bibliothèques. Donc, un, les bibliothèques ont un fonds, ce qui n'est pas négligeable. Je pense que vous, en tant que bibliothécaire, vous serez d'accord. Deux, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, 4,8 millions d'habitants, des livres qui sont très chers, des pas de possibilité d'exportation du livre en tant que tel. Donc ça permet, un livre se vend très bien à 3000 exemplaires. Donc bien sûr, quand vous en avez 1500 d'achetés, le livre, le point mort, il est atteint. Et ça permet évidemment aux auteurs d'avoir une espèce de salaire, d'être sûr de rentrer dans leurs frais. Ça permet aussi aux éditeurs d'être sûr de ne pas publier à perte. Et tout ça fait que les écrivains peuvent écrire. Et s'ils peuvent, ils peuvent vivre de leur plume. Et s'ils peuvent vivre de leur plume, ils vont continuer à écrire. Et s'ils vont continuer à écrire, on peut espérer qu'ils vont écrire de la qualité. Vous voyez tout le système, et donc ils font vivre la langue. Voilà. Et c'est comme ça que le pays a inventé un système qui bénéficie à tout le monde. Aux bibliothèques, aux lecteurs, aux maisons d'édition, aux écrivains, et au final à la langue en tant que telle.
Pour avancer un petit peu, donc là tu as fait un focus sur la Norvège, mais qui est vraiment le point d'exergue de ce qui se passe dans les pays nordiques. Quand même, de notre point de vue à nous, les pays nordiques, c'est quand même une sorte de nébuleuse où on met à peu près tout le monde dans le même panier. Est-ce qu'il y a des coproductions, des coéditions entre les pays ? Est-ce que lorsque, là tu viens de parler de la politique de la Norvège qui fait qu'on peut produire des livres parce qu'ils vont être achetés, mais comme on sait que... Sinon, dans les autres pays, ça ne marche pas de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une sorte de concertation pour que les livres paraissent, par exemple, dans plusieurs langues en même temps ?
Oui, historiquement, il y a eu dans les. Alors, historiquement, la coopération entre les pays nordiques et ça date d'après la Seconde Guerre mondiale. Même si la Suède, par exemple, était un pays neutre à l'époque, mais après la Seconde Guerre mondiale, donc là qui correspond à une période du développement de la social-démocratie, d'un point de vue politique, économique et social, il y a vraiment une volonté de coopération. Ce sont les premiers pays où on va supprimer les droits de douane. Interzone où les gens vont pouvoir circuler autrement. C'est la première communauté économique telle que nous on la connaît dans l'Union européenne. Aujourd'hui et surtout depuis la chute du mur de Berlin, chaque pays a pris sa direction économique, principalement hein, différente. La Norvège est devenue très riche, elle s'est tournée vers l'Angleterre, le Danemark s'est tourné vers l'Allemagne, la Suède et la Finlande se sont tournées vers les pays baltes, qui sont leurs cousins et possessions historiques. Donc chacun maintenant a ses spécificités, et on se rend compte dans les faits, tant politiquement, économiquement que socialement, que ces peuples ont tendance à s'éloigner les uns des autres. Et le seul domaine où il y a toujours une coopération, c'est dans le domaine culturel. Vous avez le plus grand prix de littérature, qui est le prix du Conseil nordique, par exemple, et qui récompense un des ouvrages de toute cette zone-là. Hein, y compris Groenland, y compris la minorité Sam, etc., etc. Après, concrètement, il y a eu dans les années 90-2000, et le livre que j'avais traduit qui s'appelait 12 choses à faire avant la fin du monde en était un exemple. Il y a eu en littérature jeunesse notamment des projets de publication, de d'écriture de romans et de publication et de traduction donc dans tous les autres pays. Vous voyez, mais bon, ce projet-là n'existe plus. Mais il y a des, par exemple, il y a des programmes de subvention à la traduction où les éditeurs peuvent avoir davantage d'argent pour publier le roman d'un de leurs d'un des pays limitrophes. Enfin, d'un des pays de cette région nordique. Mais ça concerne là uniquement la littérature générale. Voilà, alors ils s'entrelisent. Faut que vous parliez dans le micro. Vous parliez dans le micro pour que les gens vous entendent.
Oui. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut traduire si les gens peuvent comprendre sans que ce soit fait? Je ne comprends pas.
Parce que même s'ils peuvent s'entrelire, les langues sont différentes malgré tout. D'accord? Et ça reste quand même un peu, pour certains, il y a quand même une idée, une réalité étrangère qui est là. Et évidemment, ce sera beaucoup plus simple de lire dans la langue que vous faites quand même, les lecteurs font quand même un effort quand ils vont lire en danois ou quand ils vont lire en suédois. Voilà. Ou en norvégien.
Comme là, on a beaucoup parlé des pays, bon, de la production littéraire dans ces pays-là, je voudrais qu'on en vienne un petit peu à parler de cette production qui arrive en France. Et donc des bouquins des pays du Nord qui arrivent dans nos pays, en sachant que il y a des pays qui sont très traduits. Je pense que ça a été la Suède pendant un long moment, et des pays qu'on ne connaît absolument pas. On verra ça tout à l'heure, mais bon, finalement la production est beaucoup réduite. Était présenté au Salon du Livre un bouquin groenlandais. C'était le premier de ma vie que je voyais. Pas encore traduit d'ailleurs en français, donc on n'a aucun bouquin traduit du Groenland. Donc du rôle des agents, des traducteurs, quelle est la production qui arrive en France? Est-ce qu'elle est représentative de ce qui est publié dans les pays? Alors tu disais tout à l'heure que non, par exemple pour la Norvège, puisque c'était surtout des bouquins traduits du néo-norvégien, mais la question c'est, avec ce qui arrive en France, est-ce qu'on a une vision juste de ce qui est produit dans ces pays, à quelques exceptions près ou précisions près?
Pour la Norvège, oui. Moi, je trouve que ça. Il y a encore plein d'auteurs de grande qualité à découvrir. Et voilà. Pour la Suède, je pense. Oui, je trouve aussi qu'au niveau des romans, on a un éventail. La chance que vous avez, à mon sens, c'est que vous avez vraiment des ouvrages de qualité. Voilà, vous avez vraiment la crème de la crème de ce qui se publie. Il n'y a pas de déchets, comme par exemple il peut y en avoir pour la littérature anglo-saxonne, n'est-ce pas? Après, la particularité, si on a autant de livres du norvégien et du suédois, c'est aussi parce que à l'arrivée, donc en français, vous avez des traducteurs qui connaissent aussi la production nationale, donc la production française. C'est pas parce que vous avez des traducteurs d'une langue qu'ils vont pouvoir tout traduire. Tant Agneta Segol qui traduit du suédois que moi qui traduis du norvégien, on a une connaissance assez vaste de la production française. Et il est certain que si sans doute on avait la même chose pour le Danemark, enfin, je pense surtout au Danemark, hein, on aurait sans doute davantage d'ouvrages traduits du danois.
Enfin, oui, je pense qu'on peut même appuyer sur cette question-là, parce que enfin, tu ne vas pas jusqu'au bout, mais Jean-Baptiste, depuis que Jean-Baptiste traduit des livres norvégiens, on n'a jamais vu autant de livres norvégiens arriver en France, et même les livres qui sont traduits par d'autres personnes que toi sont pour la plupart apportés par toi. Donc quand vous rencontrez des éditeurs, c'est encore le cas, je voyais l'éditrice de Thierry Bagnier sur le Salon du Livre qui regardait les albums nordiques et disait « mais je peux pas choisir un livre comme ça toute seule. Je comprends pas la langue, je vois les illustrations, je ne connais pas le texte, je ne sais pas comment choisir. » Et c'est effectivement le rôle, ce qu'on appelle les agents littéraires quand il s'agit des langues anglo-saxonnes. Et on peut dire, et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus, ton rôle en tant que traducteur est plus qu'un rôle de traducteur, est un rôle d'agent, d'aller chercher à la fois dans la littérature nordique ce qui peut être intéressant pour les jeunes lecteurs français, mais aussi la connaissance des maisons d'édition françaises auxquelles tu vas pouvoir, pouvoir proposer les livres.
Vous avez deux types de traducteurs. Vous allez, si vous avez une question entre temps, surtout vous levez la main comme vous avez fait et vous nous interrompez. Hein, si quelque chose n'est pas clair, si vous voulez une précision, surtout vous nous interrompez. Il y a deux, je vais pas dire deux genres de traducteurs, mais enfin si. En tout cas, pour ce qui est de la transmission du livre, vous avez des traducteurs comme mon collègue Olivier Manoni qui traduit lui de l'allemand. Qui vont attendre chez eux qu'un éditeur les contacte. Voilà. Et puis vous avez d'autres traducteurs, dont je fais partie, qui jouent aussi un rôle de transmetteur de cette littérature-là. Alors, pourquoi Olivier, par exemple, ne le fait pas et pourquoi moi je le fais, ça peut aussi s'expliquer par le fait que Olivier parle allemand et moi je parle norvégien. Et que les éditeurs ont un accès plus immédiat à des langues telles que l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le russe. Hein ? En tout cas, anglais, allemand, italien, espagnol. Alors que pour des langues telles que les langues scandinaves, telles que le grec, telles que le tchèque, telles que etc., ils sont obligés de passer par un intermédiaire, passer par un lecteur. Et donc, le traducteur peut jouer ce rôle-là, qui est un rôle, comme le disait Véronique, d'agent, un petit peu, même si ce qu'on touche en tant que traducteur quand on place, entre guillemets, un livre dans une maison d'édition, c'est 0 francs, 0 centimes, ou 0 euros, 0 cent. Sinon, qu'on obtient la traduction, si l'éditeur est honnête, après avoir, mais c'est une règle tacite, hein, après que l'éditeur a acheté le livre. Et l'idée, ça consiste donc à mon sens, et c'est là où un traducteur fait bien son travail, à inonder la maison d'édition. Par exemple, je trouve que ce livre-là, qui n'est pas traduit en français, de Henrik Hovland, je trouve que ce livre-là doit être traduit ou à sa place dans le paysage éditorial français, et donc je vais lui trouver un éditeur, un traducteur qui va mal travailler, il va contacter tout le monde en même temps, un peu comme le font les auteurs qui peuvent être un peu confus et qui veulent absolument que leur livre soit traduit. Or, ce qu'il faut, c'est essayer se dire tout de suite chez qui ce livre aurait le mieux sa place. Voilà. Et donc, on va essayer de trouver le meilleur éditeur. Pour moi, à l'époque, le meilleur éditeur du livre de Maria Park, c'était évidemment les éditions Thierry Magnier.
Pourquoi, évidemment ?
Parce que je ne voyais pas là où, à la fois tant pour le livre, pour l'auteur, que pour la maison d'édition, donc la maison d'édition française, où il aurait pu être le mieux publié. Voilà. Après, c'est une question de ressenti, hein, mais de la même manière, je n'aurais jamais proposé ce livre-là à Bayard. Enfin, de toute façon, je ne travaille pas avec Bayard, mais... Oui, le contenu également, oui. Par exemple, ou alors il y a d'autres exemples, comme les livres de Kurt, de Derlon Lou. Sont des livres que j'ai proposés à de nombreux éditeurs et tout le monde l'a refusé parce que c'était un livre humoristique avec un humour très particulier. Vous les avez peut-être lus jusqu'à ce que Francine Boucher me dise oui, moi ça m'intéresse parce qu'elle publiait aussi déjà des ouvrages de ce type-là. Ça répond à...
Peut-être que vous avez des questions avant de rentrer plus dans la littérature jeunesse directement, des questions d'ordre général que vous vouliez poser. Je voudrais juste qu'ils disent quand même quelque chose sur Norla. On revient à la Norvège et sur l'aide à la traduction, parce que ça vous le savez peut-être aussi que traduire un livre de langue étrangère en France coûte de l'argent. Ça coûte, je pense, deux fois plus cher. Peut-être que je me trompe. Traduire un livre de langue telle que des langues nordiques que de l'anglais, c'est-à-dire qu'il y a des normes, enfin pas des normes, des prix indicatifs suivis par les éditeurs, et que vous avez très souvent vu dans les livres traduits avec le soutien de, et très souvent c'est des organismes des pays d'origine qui aident à la traduction.
Alors peut-être pas deux fois, mais en tout cas une demi-fois, je pense. Hein. Enfin une fois, oui. Alors les pays nordiques ont été, je pense, les premiers à se doter de structures dont l'existence, qui doivent leur existence à la, ou plutôt qui dont le rôle est de promouvoir la littérature nationale à l'étranger. Cette promotion se fait alors c'est Norla en Norvège, c'est comment est-ce qu'il s'appelle déjà maintenant le Svenskunstråd, je pense, pour la Suède. Fili pour la Finlande et au Danemark, je ne sais jamais comment ils s'appellent. Et leur rôle, en fait, consiste donc à promouvoir la littérature nationale à l'étranger de différentes manières, c'est-à-dire faire des sélections annuelles ou bisannuelles qui seront présentées aux éditeurs étrangers lors des salons, des foires. C'est aussi, comme ce sont des petites langues, et donc, comme le disait Véronique, dont les traductions coûtent plus cher, c'est d'aider les éditeurs étrangers à publier ces livres-là en prenant en charge une partie des frais de traduction. D'accord ? Donc, ça veut dire que l'argent ne tombe pas dans notre escarcelle à nous, traducteurs, mais vraiment rembourse les frais de traduction à l'éditeur qu'il a dû engager. Ce qui permet donc, pour un éditeur, en l'espèce français, de publier un livre, d'avoir moins de frais sur le livre. Et donc, ça permet d'intéresser les éditeurs. Mais le rôle est aussi d'aider les jeunes traducteurs qui commencent, de prendre en charge des voyages dans le pays, en Norvège ou en Suède notamment, où je pense que Philippe fait la même chose hein, pour la Finlande, d'organiser des séminaires de traduction, d'organiser des rencontres, bref, de faire vivre cette littérature-là dans tous les sens, c'est-à-dire à la fois dans l'exportation, mais aussi dans l'importation en intéressant le plus possible de traducteurs.
Moi, je trouve que c'est un peu intéressant et important de savoir tout ça, parce qu'en fait, après, on s'étonne d'abord d'avoir des littératures qu'on ne connaît pas du tout en littérature de jeunesse. Je pense à un certain nombre de pays d'Amérique latine, à un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, qui ont une production importante et qu'on ne connaît pas en France. Et si on ne la connaît pas, c'est pour toutes ces raisons-là. Pas de structure dans ces pays d'origine et pas de personnes en France qui font ce travail de prospection proposé aux éditeurs. Et comme tu l'as dit, et ça je pense que c'est aussi important d'insister là-dessus, qui ont une bonne connaissance des maisons d'édition en France. Et avec le corollaire qui va avec, c'est-à-dire d'avoir une inflation de livres anglo-saxons qui correspondent effectivement à une demande du public français, mais il n'y a pas un contrepoids assez important par rapport à ça.
Oui.
Alors si on rentre plus précisément dans la littérature de jeunesse, j'aurais donc des pays nordiques. Je commencerai par une question à vous. Si vous deviez citer des personnages des pays du Nord, lesquels ce seraient ? Des personnages, on va dire, tutélaires, ou les noms qui vous viennent à l'évidence quand on parle littérature du Nord, littérature nordique pour la jeunesse. Les Moumines. Fifi Brin d'Acier.
Nils Holgersson.
Il en manque encore un, à bon sens. Fifi Brin d'Acier, Nils Holgersson, enfin un auteur plutôt. et Andersen.
Andersen.
Donc, ces quatre-là fondateurs sur lesquels on va s'arrêter un petit moment.
Oui.
Faut que je remette en image ça. On va donc commencer par qui ?
Bah par le premier, Andersen.
Alors allons-y, Andersen, je n'ai pas d'image, alors vas-y.
Je pense qu'il est toujours important de revenir sur Andersen parce que... alors Andersen n'a jamais écrit pour les enfants, hein, à proprement parler. Andersen a... il a écrit des pièces qui sont illisibles, des romans qui le sont tout autant. Il a écrit de la poésie, il a voulu être acteur, il était nul. Il a voulu être danseur, il était nul. Il était... il avait un physique très, très ingrat, le pauvre. C'est aussi pour ça qu'il a écrit Le vilain petit canard. Le vilain petit canard, c'est lui, hein. Mais en tout cas, Andersen a quelque chose, à mon sens, de... Il avait écrit dans une lettre, j'ai écrit des contes, je cite ça de mémoire, hein, et mon éditeur m'a dit que ce serait avec ces contes que je deviendrais célèbre. Et ça a été le cas. Les contes d'Andersen sont, à mon sens, intéressants en ce qu'ils révèlent une particularité de la littérature scandinave. C'est-à-dire, justement, le conte est un conteur. Si quelque chose peut définir les écrivains et les écrivaines de littérature scandinave, c'est ça, c'est cette capacité qu'ils ont à raconter. Quand vous lisez une histoire traduite d'une langue scandinave, vous avez l'impression d'avoir l'auteur à côté de vous qui vous raconterait l'histoire dans l'oreille. De la même manière, ce qui compte avant tout pour un auteur, et je pense que c'est aussi le succès de cette littérature-là sous nos latitudes, et c'est dans tous les cas de figure la raison du succès du polar nordique en France et aussi à l'étranger, c'est que ce qui compte pour les auteurs, c'est avant tout de raconter. Contrairement à nous, on y reviendra cet après-midi, hein, contrairement à nous Français qui voulons d'abord faire la révolution dans le roman, soit par la langue, soit par la forme, et pour qui, à mon sens également, raconter l'histoire est presque quelque chose de vulgaire, pour les Scandinaves, comme pour les Anglo-Saxons, ce qui compte, c'est ça, raconter cette histoire-là. Et c'est très vrai pour Andersen. Quand vous lisez un conte d'Andersen, vous avez véritablement l'impression d'entendre Hans Christian qui vous raconte l'histoire à l'oreille. Voilà. Un mot sur les contes, non ? Comme sur l'ambiance générale. Les contes d'Andersen ont cette particularité de ne pas être didactiques. Ils ont la particularité de ne pas avoir de morale. De morale dans le sens où la morale qu'on entend, la morale traditionnelle qu'on peut lire dans les contes ou dans les histoires didactiques pour enfants. La morale des contes d'Andersen, c'est toujours le droit du plus faible. Le plus faible a toujours raison, en fait. Ce sont aussi des histoires qui sont très cruelles. Très cruel, très sombre. J'ai lu l'année dernière un conte qui doit s'appeler de mémoire La Bonne à Rien ou quelque chose comme ça, où c'est un petit garçon qui emmène à boire à sa mère, qui est lavandière et qui est en train de travailler. Et il passe devant la fenêtre du maire et le maire dit hey, petit, qu'est-ce que tu fais avec tes bouteilles ? Et le petit garçon répond, mais j'emmène à boire à ma maman. Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait ta maman ? Ben, elle travaille. Ah oui, c'est la lavandière. Ah oui, elle est bien connue celle-là. Et qu'est-ce que tu lui emmènes à boire ? Ben, de la bière. Ben, forcément, c'est une alcoolique. Puis, c'est très gentil de ta part, mais toi, tu finiras pareil. Comme ta mère, alcoolique, bon à rien. Mais bon, t'es gentil quand même. Allez, va lui porter ses bouteilles de bière. Voilà. Et Andersen, c'est vraiment ça, si vous voulez. C'est cette cruauté, et c'est toujours fondamentalement cruel. C'est Andersen, sont des contes très égocentriques, dans le sens où vous pouvez lire derrière chaque conte l'histoire forcément malheureuse d'Andersen. Ce sont des êtres qui sont en butte à l'injustice, qui par ailleurs, c'est aussi une réalité très, très scandinave. La social-démocratie, c'est pas pour rien qu'elle est en Scandinavie. Voilà.
Selma Lagerlöf.
Alors, Selma Lagerlöf, on retourne à ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc 1880, l'école obligatoire en Suède et en Norvège, la prise de conscience de la part des autorités que les enfants doivent avoir leur littérature. Selma Lagerlöf est une écrivain très connue. Déjà à l'époque, et le gouvernement lui passe une commande qui est le gouvernement voudrait fournir aux enfants suédois, aux petits suédois, aux petites suédoises et aux petits suédois, un livre qui soit à la fois un livre d'histoire, un livre de géographie, un livre de sciences naturelles, un livre d'ethnologie. Et évidemment un livre de lecture, et qui soit un livre passionnant. Et donc on confie ça à Selma Lagerlöf, qui écrit l'histoire de Nils, ce petit garçon qui ne fait que des bêtises, qui est très désobéissant, qui est privé d'office le dimanche, et en Suède on doit aller à l'église le dimanche, enfin à l'époque, aujourd'hui la Suède est un pays sécularisé et très laïcisé. Et donc il est privé d'église, et puis il voit apparaître, vous le savez, vous vous souvenez, un tonte. Il est évidemment méchant avec le tonte, et le tonte, pour se venger, le transforme à son tour en tonte. Et au même moment passent les oies sauvages, on est dans le sud de la Suède, en Scanie, et les oies narrent le jar Martin en lui disant « Tu n'es qu'un jar de basse-cour, tu ne pourras jamais voler ». Le jar s'envole, Nils s'accroche à son cou, et ils vont faire comme ça le tour de la Suède, sauf une région, j'y reviendrai. Et c'est l'occasion à chaque fois pour Selma Lagerlöf de raconter donc l'histoire de la région, les coutumes, et aux petits Suédois d'apprendre leur pays. Alors il n'y a qu'une région qui n'est pas mentionnée dans ce livre-là, c'est la région d'origine de Selma Lagerlöf, où elle a eu une histoire d'amour malheureuse avec une femme. Voilà. Tu ne savais pas ça. Si. On l'oublie toujours. L'histoire littéraire l'oublie toujours. Mais bon, c'est pas le sujet de notre discussion aujourd'hui. Et donc le merveilleux voyage de Nils Holgersson, c'est. Alors même si Selma Lagerlöf n'est pas une auteure de littérature jeunesse, à la fois dans l'acception contemporaine du terme, donc en 1800 à la fin du 19e siècle, que moderne aujourd'hui pour nous. Hein. Elle n'écrivait que de la littérature pour adultes. Mais en tout cas, ça va être l'ouvrage qui va d'ores et déjà marquer les littératures comme étant un ouvrage où l'enfant, où on entend la voix de l'enfant, on n'entend pas la voix de la voix de l'adulte, et c'est une des caractéristiques de cette production encore aujourd'hui, c'est que l'auteur est l'égal de l'enfant, et la voix de l'auteur s'efface pour ne laisser parler, pour ne montrer que l'enfant. C'est l'enfant qui est au centre, toujours. Même dans la fiction. Et c'est une histoire, le Nils Holgersson, qui est libéré, voilà, de toute injonction, de tout. Ce qui est important, c'est que l'enfant vive sa vie, en fait.
Alors pas étonnamment, mais j'ai regardé donc sur Electre pour aller chercher des images des livres à présenter. C'est les deux seules éditions actuellement, en tout cas sur Electre, avec toutes les limites qu'on peut donner à Electre, éditions de Nils Holgersson aujourd'hui, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire deux éditions de poche, et donc pas d'illustration. Alors il y en a eu, mais actuellement elles sont indisponibles. Mais donc, est-ce qu'il y a eu des grands illustrateurs qui ont illustré Nils Holgersson?
Je ne sais pas. Je ne pense.
Alors, je ne sais pas si c'est un livre que vous avez, pour celles qui travaillent en bibliothèque, si ce sont des livres que vous, un livre que vous avez et qui sort. Je sais que l'an dernier, j'ai été contactée par une chercheure suédoise qui voulait rencontrer des lecteurs français pour faire une étude sur Nils Holgersson. Et à vrai dire, je l'ai un peu éconduite en disant que c'était quand même un livre qu'on ne lisait pas beaucoup en France, qu'on ne lit plus en France. Alors peut-être que je vais être contredite par vous, mais je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on le lit encore beaucoup en Suède ?
Oh oui,
c'est l'évidence.
Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version dite pour enfants, et il manque certains passages. Si vous voulez l'ouvrage dans son entier, il faut lire la traduction chez Actes Sud, donc Actes Sud adulte, par Marc de Gouvenin et Léna Grumbach, qui est sorti. Fin des années 80, je pense, hein, de mémoire, mais je peux me tromper.
On passe à des auteurs plus récents.
Pippi
Landstrom, donc Fifi Brin d'Acier, dont oui. Vous avez ici une des premières publications donc en France début des années 60, si je ne me trompe pas. La Bibliothèque Rose, donc, et puis la réédition qui a été faite il y a maintenant une petite dizaine d'années, moi même 5 ans, donc aux éditions Hachette, après une longue période sur laquelle tu vas revenir, où les œuvres de Astrid Lindgren n'étaient pas disponibles du tout en France. Et pour cause.
Alors, une autre période. On pourrait dire qu'il y a deux âges d'or dans les littératures de jeunesse. Il y a donc cet âge d'or de 1880, vous voyez, qui va durer de 1890 jusqu'à 1910 maximum. Et puis un autre âge d'or, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et ça dans tous les pays. Que ce soit le Danemark, la Norvège, la Suède ou la Finlande. Et les deux plus grands pays, c'est la Suède avec Astrid Lindgren et la Finlande avec Tove Jansson. Dans ces quatre pays, au même moment, donc en 44 à peu près, chaque auteur va publier un livre qui va révolutionner la littérature nationale et qui va révolutionner la littérature pour la jeunesse. Ensuite, c'est donc Fifi Brin d'Acier d'Astrid Lindgren. À l'époque, Astrid Lindgren envoie son manuscrit à la plus grande maison d'édition qui le refuse et qui aujourd'hui encore évidemment s'en mord les doigts. Et Fifi est un. Je ne vais pas vous la présenter en détail, mais la particularité de Fifi, c'est que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est contre l'autorité. C'est quelqu'un qui est fondamentalement libre, qui dit ce qu'elle pense, qui fait ce qu'elle veut. Sa mère est décédée, son père est resté roi. En français, c'est des cannibales. Hein. C'est comme ça qu'il l'a traduit mon collègue Alain. Et c'est une, on pourrait dire qu'on dit en français que c'est une sale gosse, en fait. Voilà. Elle est détestée des adultes parce qu'elle est très inconvenante. Et elle est évidemment adorée des enfants parce qu'elle fait plein de bêtises, a priori. Elle va fixer un personnage qu'on retrouve tout du long, à commencer par évidemment les personnages de Maria Parr, qui est ce personnage que les Scandinaves appellent anti-autoritaire. La figure anti-autoritaire dans la littérature pour la jeunesse scandinave et plus avant la littérature jeunesse internationale. Je pense, par exemple, vous les connaissez peut-être, au roman de ce néerlandais, Ruskeuyer, ou Gousse Cuillère, comme on dit en bon français. Vous savez, avec son personnage de Pauline à l'école des loisirs. Vous voyez, non? Non? Et Pauline, donc, qui est un personnage récent, mais c'est aussi une fifi, si vous voulez. C'est un des personnages archétypiques de la littérature jeunesse, c'est notamment Fifi Brindacier. Et après, vous allez avoir des copies de Fifi à l'infini. Et c'est pas parce que ce sont des copies que l'ouvrage n'est pas bon. Hein. L'idée, c'est que c'est ce que dit Maria par rapport à ses livres. Maria dit, et je suis sûr que Astrid Lindgren dirait la même chose, quoi qu'il se passe, l'enfant a toujours raison. Quoi qu'il fasse, l'enfant a raison. C'est l'adulte qui a tort. Si on en arrive là où si l'enfant en arrive là où il en arrive, c'est à cause de l'adulte. Voilà. Et cette idée, elle vient véritablement d'Astrid Lindgren, qui nous montre la stupidité des adultes, qui nous montre que ce qui est important dans la vie de l'enfant, c'est la découverte du monde par soi-même, c'est il faut jouer. Qui sont autant de valeurs de la social-démocratie scandinave. Est-ce que je réponds à...
Oui. L'autre jour, j'ai entendu sur France Inter, mais alors, du coup, je ne sais plus quel auteur c'était, un auteur nordique dans l'émission de Paula Jacques dimanche après-midi, qui donc la journaliste lui posait la question si elle avait été influencée par... Fifi Brindacier et par Astrid Lindgren, et étonnamment, elle a répondu, et c'est une auteure suédoise évidemment, qu'elle détestait Fifi Brindacier, et c'est la première fois que j'entendais un auteur décrier en disant que lorsqu'elle était petite, elle ne supportait pas ce monde sans limite institué par les adultes. Alors est-ce qu'elle est unique, ou est-ce qu'effectivement des auteurs qui ont été réfractaires à Astrid Lindgren?
J'espère bien, oui. Sinon, ce serait un consensus mou et un ventre mou.
Jusque-là, je n'avais entendu que...
Oui. Mais c'est vrai que Astrid Lindgren que ce soit en Norvège, en Finlande, mais aussi... en Pologne, en Russie, en Allemagne. Je pense qu'elle est la plus lue. C'est d'abord, évidemment, donc toute langue scandinave confondue. Ensuite, c'est l'allemand. Ensuite, c'est le russe. Ensuite, c'est le polonais. Ensuite, c'est le néerlandais. Et après, bien après, il y a le français. Mais ce qui est très étonnant, c'est que plus que n'importe quel autre auteur, Astrid Lindgren a très vite capté quelque chose chez les différents peuples. Alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que chaque pays a son livre d'Astrid Lindgren, par exemple. Voilà.
Donc, je veux bien que tu dises quelques mots sur la traduction. Oui. Pardon.
Un micro.
Pendant assez longtemps, et alors vous avez rajouté, et pour cause.
Eh bien, justement, la cause, c'est la question que j'allais poser à Jean-Baptiste sur la question de la traduction de Fifi Brindacier. Je ne sais pas si vous avez dans vos bibliothèques Fifi Brindacier, l'ancienne édition, c'est-à-dire celle de la Bibliothèque Rose avec sa déclinaison en livre de poche de l'époque, ou sa nouvelle traduction qui a été réalisée il y a une petite dizaine d'années par Alain Gnaidig. Mais donc, je veux bien que tu dises quelques mots sur les soucis qu'a posé la traduction de Fifi Brindacier en France.
Alors, Fifi Brindacier est sorti aux éditions Hachette, donc dans les années 60. Et c'est une chercheuse franco-suédoise qui s'est rendue compte dans les années 90. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Moi non plus. Je sais qu'elle était venue faire un stage à la joie par les livres et qu'elle était tombée sur les traductions de Fifi Brindacier. Et elle qui était suédoise.
Et elle est oui, véritablement tombée de sa chaise en voyant des erreurs très grossières de traduction, sinon des modifications, et voire des censures. Véritablement, hein, dans la traduction française. Et donc, elle s'est lancée dans ce qui allait être sa thèse sur la traduction de Fifi Brin-Dacier en France. Et elle a, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a vraiment mené un travail d'enquête policière. Et elle a réussi à retrouver, en fait, pourquoi il y avait eu tous ces changements. Ce qui se passe, c'est qu'elle est tombée, la personne qui a publié Fifi Brin-Dacier à l'époque, qui est un homme, bien, évidemment. Les hommes sont jamais loin dans ce cas-là. Quand je dis un homme, c'est un mâle. Vous aurez compris. Et donc, lui trouvait que toutes ces histoires-là de Fifi Brin-Dacier, ça, bon, ça allait bien 5 minutes, mais que elle était quand même un peu trop délurée, cette Fifi. Et donc il s'est agi pour lui de la remettre un peu dans le droit chemin et de lui remettre une camisole. Je pense que c'est le terme qu'elle emploie, hein, cette chercheuse. Et il y a notamment un passage où le passage à l'école où Fifi fait une bêtise devant la maîtresse et ou dans la version française, elle s'excuse. Alors que Fifi ne s'excuse jamais. Jamais. Et dans les années 90, ça a été le scandale, en fait, dans le monde éditorial, bibliothécaire et franco-suédois, de la censure dont avait été victime Fifi Brin-Dacier. Et à partir de là, donc, on va rééditer toute son...
Enfin, c'est plus que ça, c'est que du coup, aussi, Astrid Lindgren n'a pas voulu. Et en fait, il y a eu interdiction aux éditeurs français de publier les œuvres d'Astrid Lindgren. C'est-à-dire qu'effectivement, Astrid Lindgren y a mis son grain de sel et a toujours été très préoccupée des traductions qu'elle faisait relire et qu'elle regardait et qu'elle a interdite un certain temps jusqu'à ce que soit... et pour les éditions Hachette, c'était un gros souci puisqu'effectivement, Fifi Brin-Dacier, c'est comme un personnage important et les autres, le reste de l'œuvre d'Astrid Lindgren.
Mais le par exemple, si vous voulez, le fameux père de Fifi, qui est le roi des cannibales en français, en fait, c'est le roi, si on traduit littéralement, le roi des nègres. Et une bonne traduction sera le roi des noirs. Ce que je veux dire par là, en prenant cet exemple-là, c'est que les traductions de Fifi, des livres d'Astrid Lindgren ont toujours posé problème. Quelle que soit la langue, il n'y a pas un exemple. C'est Astrid Zurmatz, qui est une universitaire allemande, qui a travaillé sur cette question-là de la censure dans les traductions de Fifi Brin-Dacier. Il n'y a pas une langue où, à un moment donné, une phrase, un mot a posé un problème de traduction, mais quand je dis un problème, c'est un problème idéologique de traduction. Où l'idéologie, où le traducteur, ou la maison d'édition, ça peut être la maison d'édition qui l'impose au traducteur, ait un regard idéologique sur ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est écrit, et oblige et force à un changement, en fait. Ou alors le traducteur qui, de son propre chef, va dire « non, 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 ça, on enlève ». Et que ce soit en finnois, en norvégien, en allemand, en russe, en français, toujours à un moment donné, il y a un problème idéologique.
Et j'ai cru comprendre que la nouvelle traduction d'Alain Gnaédic pose aussi des questions. Et qu'en fait, elle n'est pas satisfaisante non plus.
Non, elle n'est pas satisfaisante non plus, non. Non, cette question du roi des cannibales, par exemple, pose à mon sens problème. Alors qu'on ne traduise pas le roi des nègres, je peux comprendre. Et encore, mais le roi des cannibales, c'est pas innocent de traduire un cannibale. Hein.
Mais en même temps, pourquoi il l'a fait ? Il savait que c'était pas innocent.
Et je pense qu'il y a aussi dans Fifi, il y a une allusion à Adolf Hitler. Et Adolphe est devenu en français Arthur. Voilà. Ou alors, il y a aussi dans le fameux Ur-Pipi, qui est le pipi originel, excusez-moi, donc dans le premier fifi, si vous voulez, écrit, qui a été écrit en 43, il est question de Quisling, et Quisling, c'était le Pétain norvégien. Pétain, maréchal, nous voilà. Donc le Pétain norvégien, et dans la version norvégienne, cette allusion à Quisling a été gommée. Vous voyez, donc à chaque fois, il y a toujours un problème. Donc ça nous montre que il y a quelque chose dans la langue, dans la pensée d'Astrid Lindgren qui dépasse simplement les simples problèmes de traduction et qui est universel.
En tout cas, Astrid Lindgren, elle se caractérise à la fois par les livres qu'elle a faits, donc dont Fifi Brindacy, on va dire, elle porte-parole, mais aussi pour toute l'action qu'elle a eue en Suède autour de la défense des droits de l'enfant et le fait qu'elle ait milité pour une place de l'enfant dans la société de façon très active.
Oui, oui, oui. Alors, il ne faut pas croire non plus que les livres d'Astrid Lindgren n'aient pas posé problème à l'intérieur, en Suède également. Les frères Cœur de Lion, je ne sais pas si vous l'avez en tête, les frères Cœur de Lion. Les frères Cœur de Lion, c'est à partir des années 70, Astrid Lindgren va écrire de plus en plus de fantaisie. Les frères Cœur de Lion est à cet égard un très très bon ouvrage et qui commence sur l'histoire de deux frères. L'un est très malade et sait qu'il va mourir et il est très lié à son. C'est le grand frère qui est très malade, Véronique. C'est bien ça. Hein. Tu ne sais plus. Bon, je pense que c'est le grand frère qui est très malade et son petit frère l'adore, le vénère, etc., etc. Et le grand frère lui dit mais ne t'inquiète pas, je vais mourir, mais on se retrouvera dans un autre pays. Et donc dès le début du roman, le grand frère meurt et le petit frère, parce que son grand frère meurt, se suicide. Voilà. Et à l'époque, et ensuite, ils se retrouvent, donc ils sont morts tous les deux, et ils se retrouvent dans un autre pays, et l'histoire commence. Vous voyez ? Et à l'époque, quand le roman est sorti en 73, si je ne m'abuse, la critique est tombée à bras raccourcis sur Astrid Lindgren en disant, vous n'avez pas le droit de commencer un livre destiné aux enfants qui s'amorce sur une mort et un suicide. Alors, et c'est évidemment, le suicide du garçon, ça, c'était impensable pour les Suédois de l'époque. Astrid Lindgren le voyait totalement autrement. Elle disait, ce suicide et cette mort, ce sont des morts. C'est une mort et un suicide qui sont métaphoriques. L'idée, c'est qu'il y aura toujours un monde meilleur quelque part. Voilà. Il y a toujours un monde meilleur, mais ce monde meilleur, il faut se battre. Et c'est toute l'histoire donc des frères Cœur de Lion. Voilà.
Astrid Lindgren, c'est un phénomène national dans son pays. Avec, moi, ce qui m'avait marqué, mais c'est juste une anecdote, mais la poupée en tant que telle de Fifi Brindacier, on vous la vend dans l'avion quand vous allez en Suède. C'est comme si dans l'avion, on vous vendait Babar ou le petit prince en marionnette. C'est absolument inimaginable. Dans l'avion, on vous vend ça et des paquets de cigarettes. Quoi.
Et pour l'anecdote, à l'époque, dans les années 80, les poupées étaient fabriquées en RDA, alors que les livres d'Astrid Lindgren étaient interdits en RDA, parce qu'elle était considérée comme le symbole de la décadence occidentale et capitaliste.
Et donc là, les images que j'ai présentées, outre la photo d'Astrid Lindgren de vers la fin de sa vie, donc elle est morte en 2002, c'est les timbres, Fifi Brindacier, évidemment les parcs d'attractions avec Fifi Brindacier, et puis le fait que ces livres, et entre autres Fifi, a été adapté, ça vous les avez peut-être vus, en nombreux films ou films d'animation, etc. Astrid Lindgren est morte en 2002, elle a été instituée tout de suite, l'année où elle est morte, le prix Astrid Lindgren, qui est ce qu'on dirait entre guillemets le Nobel du livre pour enfants. Enfin, c'est dit comme ça par le gouvernement suédois. C'est le gouvernement suédois qui l'attribue chaque année soit un auteur, soit un illustrateur, soit une personne qui s'est fait remarquer dans le domaine du livre pour enfants, et ce, de n'importe quel pays du monde. Et donc, pour donner ce prix qui, d'un point de vue financier, est très, très important, je ne sais pas le nombre
très
de couronnes,
doté, hein.
Mais en euros, c'est autour de 500 000 euros. Non, ça, j'exagère. C'est 500 000 couronnes, c'est 200 000 euros. Mais enfin, c'est quand même absolument énorme. C'est quand même le plus grand prix donné à un livre pour la jeunesse, ce qui montre bien aussi l'engagement qu'a voulu suivre l'État suédois. Et donc, chaque année, sollicite dans tous les pays du monde, à travers des institutions telles que La Voix par les livres ou le CRILJ en France, de proposer chaque pays propose un auteur ou des illustrateurs ou des personnes qui se sont fait remarquer dans leur engagement, pour proposer des candidats avec un jury qui est, je crois, essentiellement suédois. Et l'année dernière, c'est comme ça que Kitty Crotter, en 2010, a reçu le prix. J'ai oublié les noms.
Pour la Belgique.
Pour candidat, il n'y en a qu'un par an. Il n'y a qu'une personne qui gagne le prix.
Elle représente la Belgique.
C'est la Belgique qui l'avait proposé. Ouais. Oui, mais chaque pays peut présenter un auteur de son pays et un auteur étranger.
Et pour
étranger.
2011, là, je vois, c'est la France propose Jean-Claude Mourleva, Geneviève Pat, Xavier Laurent Petit, Isabelle Pin, Salon du Livre Jeunesse, Johan Sfar et Katharina Valks.
Donc, évidemment, que la difficulté à chaque fois, mais ça, ce sont les prix internationaux, que ces auteurs soient connus dans les pays dans lesquels ils vont être, qu'on va être nommés. Quatrième auteur et personnage emblématique,
oui.
Tove Jansson.
Ah, alors ça, c'est ma préférée. Tove Jansson, avec les Moumines. Les Moumines, tu disais, Véronique, que le premier, l'inondation, est traduit...
Moumine et la grande inondation, c'est l'image du milieu, vient tout juste de... Enfin, tout juste, je pense que c'est l'année dernière, et qui est donc le premier.
Oui.
Moumine vient de paraître aux éditions du Lézard, qui fait un travail formidable autour de Tove Jansson.
Voilà. Donc, Moumine et la grande inondation, ce qu'il y a de commun dans tous ces, ça nous permet encore une fois de faire un peu d'anthropologie et d'ethno-linguistique, ce qu'il y a de commun dans tous ces pays, y compris la Finlande, mais à d'autres égards, et que vous allez retrouver à la fois chez Moumine et chez Fifi Brindacier, c'est cette volonté chez les Scandinaves et les Nordiques, ou plutôt ce désir farouche d'indépendance. C'est pour ça que la Norvège et l'Islande jusqu'à présent n'étaient pas dans l'Union européenne. C'est pour ça que le Danemark et la Suède ont des droits particuliers au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que le Danemark et la Suède ne font pas partie de la zone euro. Par exemple. Ce qui inquiète le plus les Scandinaves, et ça date même de l'époque viking, c'est d'être gouverné par une suprastructure. Et les deux, donc, et surtout Moumine et la grande inondation, commencent par une inondation dans la forêt des Moumines, où maman Moumine et Moumine se retrouvent tout seuls et papa est loin. Et ils vont périr si papa ne revient pas les aider. La symbolique, c'est évidemment la guerre. La guerre qui, en Finlande, a été très, 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 très longue et très, très, très meurtrière. C'est la guerre entre l'URSS et la Finlande. La guerre, notamment, qui s'appelle notamment la guerre d'hiver, où vous allez véritablement avoir des tranchées dans la neige et qui durent pendant 5 ans. Et c'est tout ce dont parle le Moumine et la grande inondation. Moumine, le monde de Moumine, c'est un monde parfait, en réalité. Un monde qui n'existe pas, mais qui n'existe pas a priori, hein. Mais qui est un monde où fondamentalement règne l'amour, où fondamentalement règne l'entraide. C'est dès le premier livre, hein, il est question de ça, de où les parents sont là pour protéger leurs enfants, où les enfants ne sont pas forcément gentils les uns envers les autres, mais où au final, en tout cas, ils sont là les uns pour les autres. Et c'est aussi, à mon sens, une des caractéristiques de cette littérature jeunesse-là. C'est-à-dire que, alors ça va paraître, quand je le dis comme ça, ça va paraître un peu gnangnan et sirupeux, mais le lecteur, l'auteur veut le bien du lecteur. Voilà. Et l'auteur montre que quoi qu'il se passe, même s'il y a, même si la vie est fondamentalement triste, fondamentalement injuste, où les gens sont fondamentalement méchants, il y a au bout du compte quelque part un lieu, une structure, une forêt où on sera bien un jour. Astrid Lindgren ne disait pas autre chose avec la mort et le suicide dans les Frères Cœur de Lion. Celui que je préfère, c'est vraiment celui, un hiver dans la vallée des Moumines, que je vous invite vraiment à lire si vous voulez savoir ce que c'est que l'hiver dans le Nord. Et donc cet hiver très long où il fait dans certaines régions nuit tout le temps, où on est très seul, très isolé, et où on est forcément dépendant des autres si on veut survivre. On ne peut pas vivre seul en Scandinavie, c'est pas possible. On peut vivre isolé, mais on ne peut pas vivre seul, on a toujours besoin les uns des autres. Et c'est aussi un livre qui nous donne une bonne idée de l'âme, notamment évidemment finlandaise. Donc ces Finlandais qui sont très mutiques, où le silence fait partie de la manière de communiquer, et où à la fin il y a ce passage, dans les dernières pages il y a ce passage où de mémoire Moumin, donc l'été est arrivé, tout le monde s'est réveillé, Moumin n'est plus seul, et il est sur le ponton. Ça aussi c'est une réalité très finlandaise. Vous l'avez aussi en Suède, un peu moins en Norvège, mais c'est le ponton, le sauna, les canneberges, tout ça, ce sont des réalités très, très, très finlandaises. Donc, il faut s'imaginer un lac, comme ça, avec le chalet, et puis le ponton qui va mener au bateau et d'où on va plonger pour aller se baigner dans le lac. Et donc, Moumin, Tove Jansson écrit, Moumin se mit à courir, il se mit à courir sur le ponton parce qu'il avait besoin d'être seul. Il se mit à courir parce qu'il tellement il était heureux. Voilà. Et ça résume, à mon sens, vraiment cette façon de ne pas extérioriser leurs sentiments qu'ont les Finlandais, notamment, hein, mais aussi les Scandinaves. Vous connaissez ça des films de Kaurismäki, notamment. Et puis cette générosité qu'il y a dans les Moumines.
Alors Tove Jansson, c'était d'abord une illustratrice et d'abord une auteure de bande dessinée.
Oui, oui. Et ensuite elle est venue au livre pour enfants et c'est toujours la même illustratrice dont le nom évidemment m'échappe là, qui a illustré ses livres.
Alors les premiers, donc en fait ce qu'on a d'abord connu en France, c'est les romans et non pas les bandes dessinées de Tove Jansson. Donc celui que vous voyez tout à gauche, un hiver dans la vallée de Moumine, il était sorti dans la bibliothèque internationale chez Nathan, donc dans les années 60, donc cette collection dirigée par Isabelle Jean, qui a fait découvrir la littérature étrangère, la fameuse littérature étrangère en France. Et pendant très longtemps, chez Nathan, on n'a plus publié les romans de Tove Jansson, mais comme tous les livres de la collection de la Bibliothèque internationale, il y a comme une volonté chez les éditeurs de faire table rase de ce qui s'était fait avant chez eux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez Nathan, ce refus de la tradition et de poursuivre ce qu'avaient fait les prédécesseurs, ce qui n'était pas le cas ni chez Hachette, ni chez Gallimard, par exemple. Et les Moumines sont ressorties il y a 7-8 ans, peut-être un peu moins, 5 ans, un certain nombre de romans, mais dans une nouvelle traduction. La première était de Kersti Chaplet et son mari, dont j'ai oublié le prénom.
Pierre
Chaplet. Et ils ont été réédités est retraduit dans une traduction qui a posé souci, encore une fois, on revient toujours, c'est le même problème de traduction, c'est-à-dire qu'autant le nom du personnage Moumine a été conservé et les autres personnages aussi, mais le texte a été retraduit et Kersti Chaplet et Pierre Chaplet ont porté plainte en disant le nom de Moumine, tel qu'il était traduit, et des autres personnages, nous appartiennent et donc... On peut pas les utiliser. Alors ça, je ne sais pas. Peut-être lui dire deux mots sur quelle est la réglementation dans ce domaine-là. Toujours est-il que, à nouveau, ils sont indisponibles et que donc on ne trouve pas les romans chez Nathan en poche au jour d'aujourd'hui. Donc si vous les avez, quelle que soit la traduction, gardez-les précieusement. En revanche, les publications bande dessinée, bon, on vient de le dire, hein, Petit Lézard.
C'est pour ça qu'il s'appelle Moumine avec deux O ?
Non, parce que je pense que les éditions du Lézard sont parties des éditions originales. Je ne sais pas s'il y a eu un lien avec les chapelets, mais en tout cas, oui, ils n'en ont pas tenu compte. Oui, je pense qu'il y a un lien. Après, lire les Moumines aujourd'hui, je sais pas si vous les avez en bibliothèque, si vous les lisez avec les enfants, si les enfants le prennent facilement. Moi, c'est une question que je m'étais beaucoup posée à Livre Trésor dans le cadre du comité de lecture, de revenir comme ça sur ce que moi j'appelle les fondamentaux de la littérature de jeunesse. Et donc, dans le cadre du comité de lecture, avec toutes les bibliothèques du département, on avait pris un peu le parti de relire des classiques, littérature de jeunesse, pour les faire revivre dans nos bibliothèques. Et autant Fifi Brin d'Acier, il y a eu... pas mal d'entre nous n'avaient pas encore lu et a été lu évidemment avec beaucoup de bonheur. Moumine a eu beaucoup plus de mal à passer auprès des bibliothécaires au jour d'aujourd'hui et surtout disait qu'elles avaient du mal à le proposer aux enfants. Alors je ne sais pas si c'est le cas, sauf et juste, et comme c'est toujours la même chose, jusqu'au jour il y en a qui ont dit mais nous c'est ce qu'on utilise en lecture continue avec les enfants, entre autres le mercredi dans les accueils en lieu et place de l'heure du conte et que... à écouter à haute voix, bien évidemment, ça passait d'une façon complètement différente.
Je crois que c'est aussi une question de traduction. Dans la traduction des deux... je pense que j'avais comparé suite à ce problème-là, cette divergence. Et le problème, si vous voulez, des langues scandinaves, c'est que ce sont des langues comme les peuples, c'est-à-dire dont la hiérarchie, s'il y a une hiérarchie, elle est horizontale. En scandinave, on se dit pas vous, on se dit tu. Alors qu'en français, on fonctionne par registre. Donc vous avez le registre soutenu, la langue soutenue, la langue parlée, la langue familière, la langue vulgaire. Vous voyez, donc on est comme ça. Alors qu'il n'y a pas cette question de registre dans les langues scandinaves et on se dit tu. Et de la même manière, les syntaxes sont différentes. En scandinave, on fonctionne par par hypotaxe, alors que nous, on fonctionne par parataxe. Bref, ça veut dire que, si vous voulez, les langues scandinaves vont dire il s'est levé, il est allé dans la chambre et il y a posé un livre. Nous, on va dire, il est allé dans la chambre où il a posé un livre. Vous comprenez ? On va utiliser la subordonnée parce que c'est plus joli. Alors que en scandinave, on peut faire tout à fait voilà, des phrases comme ça, indépendantes, reliées par une conjonction de coordination. Et si vous lisez bien les Moumines, vous allez retrouver ça, justement. Et je pense
qu'il fait aussi son charme.
Voilà, et toute la difficulté après, c'est de savoir pour le traducteur qu'est-ce qu'il ou elle doit privilégier. Et c'est le problème que n'ont pas résolu les traducteurs, à mon sens, hein, que n'ont pas résolu les traductrices dans la nouvelle traduction des Moumines, qui se sont contentées de retraduire, mais sans se poser la question de fond.
Donc en présentant un peu ces quatre auteurs de référence et quatre personnages ou presque de référence, tu as un peu donné ce qui caractérise la littérature nordique, mais je veux bien que du coup, maintenant tu abordes ça plus précisément. Comment caractériser la littérature jeunesse nordique ? Et est-ce que d'un pays à l'autre, il y a des différences notoires ?
Je pense que la différence fondamentale par rapport à nous, c'est la place de l'enfant, fondamentalement. Alors c'est la place de l'enfant tant fictionnelle, je vais employer des grands mots, tant la place de l'enfant fictionnelle que la place de l'enfant réel. L'enfant fictionnel reflétant l'enfant réel. C'est-à-dire que de la même manière que dans la réalité, au quotidien, l'enfant a sa place, il est présent, il est même hystériquement central, je trouve. Mais bon, ça, c'est moi qui dis ça. Hein. Mais de la même manière, si vous voulez, il est au centre de la narration, littéraire. J'y reviendrai cet après-midi, mais il est au centre dans le sens où il est à un pied d'égalité, encore une fois, je le disais tout à l'heure, avec l'auteur. L'auteur s'efface derrière son personnage. L'auteur n'indique pas son point de vue en tant que personne, mais il laisse son personnage vivre, parler, dire ce qu'il ou elle a à dire, quelles que soient ses phrases. Et l'auteur n'est pas là pour nous, à la fois imposer son point de vue à son personnage, à l'action ou au lecteur. C'est le personnage qui dirige, en fait, l'auteur. Qu'est-ce que tu me demandais, sinon ?
Eh ben les autres caractéristiques, il n'y en a pas qu'une seule.
Oui, pardon. Je parlais tout à l'heure d'anti-autoritarisme. Ça, c'est très, 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 très clair. Cet anti-autoritarisme qui va naître avec Fifi Brindacier, il sera, vous allez le retrouver dans tous les pays. Dans tous les pays, par exemple au Danemark, vous avez, il y a un ouvrage qui est hélas toujours pas traduit, qui s'appelle Pelle seul au monde, qui date de 1942, qui a une illustration 50s que pré-moderne presque, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui un matin se réveille et qui constate que le monde, qu'il est seul au monde. Et donc évidemment c'est génial puisqu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, il peut manger autant de glace qu'il veut, il n'a plus à obéir à personne. Donc vous voyez encore une fois l'anti-autoritarisme, l'enfant qui est libre. Et puis à la fin, il finit par s'ennuyer. Le tracteur qu'il conduisait tombe au fossé. La machine à chocolat ne s'arrête plus. Il dit oh là là. Puis au final, il s'ennuie en fait. Il a besoin des autres. Et en fait, on se rend compte à la fin qu'il rêvait. Et qu'est-ce qu'on lit derrière ça? C'est évidemment l'occupation allemande. Donc on retrouve encore une fois ce refus d'une autorité imposée. L'anti-autoritarisme, pardon, concrètement en littérature de jeunesse, encore aujourd'hui, à travers des personnages comme Kurt pour la Norvège, à travers des personnages comme pour la Suède, un exemple. Évidemment, il suffit que je réfléchisse pour qu'ils ne m'en viennent pas. Bref, mais ce sont des comme Fifi, ce sont des enfants qui vont se rebeller contre l'ordre imposé et qui vont suivre leur désir, alors que ce désir-là soit juste ou pas, hein, ou se révèle faux ou vrai. Mais en tout cas, ce sont des personnages qui peuvent, à un moment donné de leur vie, de leur existence, vivre leurs envies et faire du monde, des gens, d'eux-mêmes, leur propre expérience. Encore une fois, qu'ils se trompent ou pas. Là n'est pas... Voilà. Chez Maria Par, c'est ça aussi. Hein, c'est chez Maria Par, vous avez tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que même si les deux personnages, Trill et Lena, n'arrêtent pas de faire n'importe quoi et les bêtises les plus invraisemblables les unes que les autres, il n'empêche, ils sont dans un cadre aimant. Les parents, les grands-parents les protègent, les aiment et les soutiennent quoi qu'il arrive. Voilà.
Alors, à l'occasion du Salon du Livre, on a vu plein d'articles sur les pays nordiques et sur la littérature nordique et revenait sans cesse l'imprégnation de la nature et que comme quoi la neige, les fjords, les forêts imprégnaient toute la littérature. Est-ce que c'est vrai pour la littérature de jeunesse? Ou est-ce qu'on est dans une imagerie d'Épinal?
Oui, je pense que c'est plutôt ça. Si vous voulez, la nature est présente. La nature est présente. Oui, évidemment, la nature est présente parce qu'elle l'est au quotidien et qu'il est certain, que tous les Nordiques et encore plus on monte vers le nord et plus on l'est. Donc qu'on soit islandais, qu'on soit norvégien, suédois ou finlandais, on est très proche de la nature. Dès qu'on a un moment. En Norvège, on va faire du ski en hiver et on va se faire une randonnée en été. Dès qu'on a un moment en Suède et en Finlande, on va dans son chalet près du lac. En Finlande, on fait un sauna, on va au sauna et puis en Suède, on va à la pêche près du lac. Vous voyez ? Mais ça ne fait pas pour autant de la nature un élément central de la littérature. Non. C'est comme dire la présence du troll dans la...
C'était la question suivante.
Dans la littérature, c'est n'importe quoi. Pourquoi pas la présence du stylo plume dans la littérature de jeunesse française. Enfin, c'est... Voilà. À ce moment-là, si on parle de la présence du troll dans la littérature de jeunesse scandinave, on s'interroge sur la présence du stylo plume dans la littérature de jeunesse française. À ce moment-là, ça a un sens.
Oula, je vois pas tout à fait le lien, mais c'est pas grave.
Oui, ben voilà, justement.
Et puis, autre image, pas d'Épinal, celle-là, je pense, en tout cas, qui nous a tous marqué, c'est que, et ça découle de la place de l'enfant qui est donnée dans la littérature de jeunesse, c'est que on y aborde des sujets difficiles, voire tabous, entre guillemets, et avec trois guillemets. Mais en tout cas, et on a peut-être tous en tête aussi un album qui d'ailleurs est épuisé, je reviens toujours à celui-là, mais il m'a marqué, c'est Adieu Valentin, qui était sorti chez Pastel il y a une vingtaine d'années, qui est épuisé aujourd'hui, et qui mettait en scène un enfant qui mourait devant les yeux de sa sœur ou de son frère, je ne sais plus lequel des deux. Donc voilà, donc ça aussi, le fait de pouvoir aborder tous les sujets.
Oui.
Ce qui, en France, a fini par arriver, mais avec quelques années de retard.
Disons qu'historiquement, si vous voulez, très vite, vous avez ce second âge d'or, donc en Finlande avec Tove Jansson, en Suède avec Astrid Lindgren, en Norvège avec des auteurs moins connus, comme Anne-Kart Vestlu, et qui vont être popularisés par la radio. Dans les trois cas, on est dans des mondes idéaux, où l'enfant est roi, où l'enfant passe ses journées à jouer, où l'enfant est libre, où l'enfant... oui, vraiment le monde idéal dans tout ce que... sans aucun... facteur péjoratif lié au terme idéal. Vous voyez, c'est ni rose bonbon, c'est vraiment parfait. Quand bien même, ça ne veut pas dire grand-chose, parfait. Mais c'est ça. Et puis, à partir des années 60, on va voir arriver un nouveau genre littéraire qui est le genre aujourd'hui central de toute littérature jeunesse. Malgré les modes et malgré les changements de genre, c'est le réalisme social. Et les premiers qui vont être, enfin les premiers, je m'avance un petit peu, tu me corriges Véronique, Peut-être que les anglo-saxons l'ont fait en même temps ou avant. Mais en tout cas, un genre qui va marquer la littérature, voilà, je vais dire ça comme ça, un genre qui va marquer la littérature nordique pour la jeunesse, c'est le genre du réalisme social, où on va en fait théoriser les problèmes auxquels l'enfant est en butte. C'est-à-dire l'injustice dans la société, les problèmes familiaux, le divorce, le chômage. Alors plus on avance dans les décennies, plus ces problèmes changent. Hein. Donc dans les années 70, ça va être le chômage, puis ça va être la pollution, puis ça va être on va aborder des questions d'angoisse, de l'angoisse fondamentale, les questions d'homosexualité, et évidemment. Et on arrive, si vous voulez, comme ça, tac, 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 à tous les tabous de la littérature de jeunesse ou les tabous du quotidien que sont, qu'est-ce que j'avais dit lundi, l'homosexualité, la mort, le suicide, la maladie, le corps nu, la différence, la femme, la violence, etc., etc. Voilà. Et du fait de la place historique de la littérature jeunesse, les gouvernements ont toujours autorisé les littératures pour la jeunesse à avoir une place, il est évidemment plus facile pour ces littératures-là d'aborder ces fameux sujets dits difficiles, voire ces sujets tabous. Donc il est plus facile pour un auteur tel que Tormod Haugen, un Norvégien, dans les années 80, avec ses livres Joachim et les oiseaux de nuit, de parler de parents qui sont internés en hôpital psychiatrique, de parler d'enfants qui ont une angoisse fondamentale. Il est plus facile pour Marit Kaldhol et Wenche Huyen de publier l'album Adieu Valentin, où on va vous présenter très concrètement un enfant qui vient de perdre un de ses amis, et c'est le deuil de l'enfant. Et ça n'est plus matérialisé par, comme ça l'est traditionnellement dans la littérature pour la jeunesse, par un nounours ou un doudou qui est perdu et ça doit rappeler la mort. Là, on y est concrètement. Hein, c'est Astrid Lindgren, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un tabou, mais un des motifs qu'on retrouve beaucoup dans cette littérature-là, c'est la cruauté. La cruauté des enfants entre eux, et notamment la cruauté des filles. La Scandinavie découvre la violence féminine, donc la violence des adolescentes envers elles-mêmes. C'est, vous l'aviez avec Annika Thor. Le jeu de la vérité, c'est ça, Véronique? Le jeu de la vérité chez Casterman, qui est aujourd'hui épuisé. Annika Thor étant l'auteur de cette tétralogie chez Thierry Magnier, hein, Une île trop loin. Je continue maintenant ou on...
Parce que du coup, là, je voulais qu'on continue à travers les auteurs qui sont venus au Salon du Livre, oui, présenter un petit peu. Et donc, du coup, ça va être ces auteurs-là. Et du coup, c'est même toi qui vas parler plus que moi. Donc, en fait, vous avez eu là, dans les mains la brochure avec les 17 auteurs présents au Salon du Livre. Alors, ce ne sont pas qu'ils sont représentatifs forcément de la littérature nordique, mais c'est quand même intéressant de voir que lorsque des pays doivent, entre guillemets, envoyer en France des représentants de leur courant littéraire, c'est cela qu'ils ont choisi, en sachant très bien qu'on était là encore dans des problèmes entre guillemets politiques, où il fallait équilibrer les différents pays, où il fallait des auteurs jeunes et des auteurs moins jeunes, où il fallait que les maisons d'édition soient représentées. Mais n'empêche, pour une grande partie d'entre eux, ils sont intéressants. Donc je vais suivre dans l'ordre alphabétique, même des auteurs tels que ça a été présenté dans la brochure, même si c'est pas dans l'ordre des pays. Et donc du coup, c'est toi qui vas présenter Non, pas tous, mais Bodil Bredsdorf.
Oui.
Parce que tu l'as. Oui. tu l'as traduite, c'est une auteure danoise. Alors là aussi, ce qui est toujours intéressant, qui pose question, c'est que lorsqu'on découvre des auteurs de pays étrangers en France, on ne sait, et quand ils sont traduits pour la première fois, on sait rarement comment ces livres se placent dans leur production. On croit, entre guillemets, que c'est un nouvel auteur, alors que c'est un auteur qui en a déjà publié peut-être une dizaine ou une quinzaine avant qu'un livre soit publié en français, et que souvent, mais ça c'est aussi les problèmes de la traduction en France, c'est que les éditeurs français, sauf s'ils ont été accompagnés, on va dire, par une personne telle que Jean-Baptiste, enfin un traducteur ou un agent, se fient beaucoup plus au prix littéraire ou à la renommée qu'ont pu avoir les livres ou dans leur pays, ou par le nombre de traductions qu'ils ont déjà eues avant que la France se décide à les publier. Alors justement, pour Bodil Bredsdorff, c'était les premiers romans qu'on a connus en France, donc une tétralogie, donc qui commence avec La fille Corneille, et qui va sur 4 tomes suivre 4 héros, 4 personnages, en tout cas, et ce qu'elle expliquait lundi, quand on l'a rencontrée, enfin mardi plutôt, à la journée organisée par La Joie par les livres, c'est qu'une de ses premières intentions avec cette série de livres, qu'elle ne pensait d'ailleurs pas être une série, c'est de rester toujours au niveau de son lectorat qu'elle visait, c'est-à-dire des enfants qui vont rentrer dans l'âge de l'adolescence, donc une douzaine d'années, et que ces héros aient toujours 12 ans. Et comme c'est une avancée dans le temps, ces quatre livres que vous avez peut-être lus, elle a à chaque fois déplacé le focus d'écriture sur un autre héros, sur un autre des personnages, pour que le héros principal ait toujours 12 ans, en tout cas, soit en train de quitter l'enfance pour entrer dans l'adolescence, ce que je trouve particulièrement intéressant comme façon de concevoir cette tétralogie.
Elle insistait aussi pour dire que ce ne sont pas des romans historiques, même si nous, on peut avoir l'impression, quand on les lit, qu'il s'agit de romans historiques. Vous remarquerez en les lisant, ou après les avoir lus, qu'il est impossible de dater la période. Tout juste est-il question, à un moment donné, de chariot. Et donc, de ce fait, je me suis dit, bon, s'il y a un chariot, ça nous place vers cette période-là. Mais je vous mets au défi, pour les avoir traduits, de pouvoir le dater. Ça n'est pas possible. On peut très bien être dans un début de XXe siècle, comme dans un, comme au XIXe, comme au XVIIIe. Et ce sont, encore une fois, elle nous présente 4 enfants qui sont libres, donc ils n'hésitent pas à quitter leur foyer. Donc leur foyer, c'est le lieu où ils sont nés, voir leur famille pour faire leur expérience du monde. Ce sont des enfants donc qui prennent leur destin en main. C'est toujours le cas dans la littérature, à un moment donné de la vie de ces personnages, dans la littérature nordique. Et ce sont des enfants qui vivent dans un univers aimant, où il y a en tout cas, même s'ils vont rencontrer des gens qui leur veulent du mal, il y a toujours un adulte auquel ils pourront se raccrocher, et quelqu'un qui leur voudra du bien, et quelqu'un qui va les aider. Voilà.
Et ce qui était intéressant dans ce qu'elle disait, donc, puisque c'est une sorte de roman d'errance, on va dire, de ces personnages, la question qui lui était posée, c'était justement l'absence de famille, puisqu'ils sont d'une façon ou d'une autre orphelins. Et la question de la personne qui menait le débat était de dire, mais pourquoi il n'y a pas de famille dans vos parents? Et elle disait, dans vos romans, elle disait, moi, le plus important, c'est pas la famille, c'est la présence d'adultes qui soit là. Ce n'est pas forcément la famille qui doit être référente pour les enfants, mais les adultes. Auteure norvégienne, Karen Anne Bujlo, dont on ne dira pas grand chose. Donc elle fait partie de ces auteurs qui ne sont pas encore traduites en français. Paraît-il qu'elle devrait l'être bientôt. Est-ce que tu la connais?
Pas du tout, non.
Bon, donc on n'en dira pas plus. Et je l'ai
non,
pas
c'est écrit en SAM. Moi, je ne lis pas le Jusqu'à Nouvel Ordre, le SAM. Et je pense qu'il y a beaucoup de Norvégiens qui ne connaissent pas, mais qui ne la connaissent pas non plus.
Mais il y avait une volonté de la part du Conseil nordique qui a organisé donc ce voyage d'auteur vers le Salon du Livre, que les SAM soient représentés au Salon du Livre avec toute la problématique que ça pouvait poser. C'est-à-dire que personne ne connaissait ces livres, ni les auteurs, donc on ne pouvait pas tellement en parler. Les auteurs, donc Raquel Hemsdal et puis l'illustratrice Aslaug Jondostir, je pense que je prononce très très mal, viennent des îles, elles des îles Féroé et Aslaug d'Islande. Un des intérêts principaux de les rencontrer, c'est que la littérature islandaise, on ne la connaît absolument pas en France, il n'y a quasiment rien de traduit. Et donc, ils ont mis en scène, elles, Raquel Hemsdal, l'auteur, a écrit un certain nombre de romans pour les adolescents qui ne sont pas traduits en français, a écrit, et donc c'est un livre qui a été écrit en fait à trois mains, cette histoire de monstre qui met en scène à travers deux personnages qui sont soit frères et sœurs, soit amis, soit copains, les différentes peurs enfantines, la jalousie, le fait de pouvoir se dépasser soi-même, etc., à travers ces personnages. Alors, les deux auteurs, ils étaient drôles parce qu'ils étaient venus avec un petit montage qui les mettait en scène. Et là, ils faisaient beaucoup référence à la nature, c'est-à-dire qu'elle a montré beaucoup d'images de rochers, de montagnes, d'une sorte d'aridité de la nature islandaise, en disant que c'était ce qui les avait inspirés.
Islandaise ou féroïenne
Je crois qu'elle parlait plutôt de l'Islande.
Oui.
Pour mettre en scène ces deux personnages très 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 anguleux avec des histoires très simples. De mon point de vue, je ne dirais pas que ces livres soient passionnants. Ils n'apportent pas tellement de choses nouvelles par rapport à cette thématique-là. L'intérêt, c'est qu'effectivement, ce sont des pays et des auteurs qu'on ne connaît pas du tout en France.
Par rapport à cette présence de la nature, ça me fait penser brusquement. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. De Björk, de la chanson de Björk, Bachelorette, où vous voyez, je pense que c'est Bachelorette, non, c'est pas Bachelorette, bref, où vous voyez cette nature islandaise, et à un moment donné, il y a le sol qui bouge comme ça, pour symboliser donc les tremblements de terre, et la terre qui s'écarte. Bon. Et dans cette chanson, Björk dit justement. I thought I could organize freedom as Scandinavian of me. Je pensais pouvoir organiser la liberté. Qu'est-ce que c'était scandinave de ma part? Et à mon sens, ça résume très parfaitement cette idée scandinave de en plus dans un contexte où la nature est très présente, mais ça résume très précisément cette volonté cet état de fait d'être libre et en même temps d'essayer d'organiser ça au mieux, ce qui est très suédois au quotidien.
Alors on arrive à un auteur illustrateur, je veux dire, qui aujourd'hui est emblématique, on va dire, de la littérature nordique, lui, Staniol, qui est norvégien, dont le premier album, L'été de Garmin, a paru il y a 3 ans en France, traduction par Jean-Baptiste, donc c'est bien lui qui va en parler, et dont le troisième opus, autour de ce petit garçon, Le secret de Garmin, a paru là, juste au mois de mars, pour le Salon du Livre. Donc autant L'été de Garmin avait paru avec 2 ans, je veux dire, d'écart avec la parution originale, là, depuis, Albin Michel assure presque la contemporanéité, je ne sais pas si on dit comme ça, parce qu'il a paru à la fin de l'année.
Le secret ?
Oui, le secret, en Norvège.
Oui, c'est possible.
Donc, pourquoi emblématique ? Parce qu'au niveau de l'illustration, Stianul a apporté une patte tout à fait particulière à l'illustration nordique, certainement, mais même en France, un travail qu'on ne connaissait pas, et surtout une façon de raconter les histoires et ce travail qu'il peut faire entre le texte et l'image qui est absolument passionnant, en abordant encore une fois ces questions qui sont celles de l'enfance, vues à travers les yeux d'un enfant, de la peur de grandir, la peur de rentrer à l'école, et ou que ce soit dans Le secret de Garmin, la question du sentiment amoureux, avec à chaque fois des adultes dans ces livres-là qui sont très aimants, très présents, et s'il y a un danger qui peut arriver, et il y en a un qui arrive, ça ne sera pas du côté des adultes, mais du côté des enfants, des autres enfants.
Oui, alors l'illustration, d'abord, hein, on va commencer par ça. L'illustration, il y a deux influences centrales dans le travail de Stian. C'est d'abord John Hartfield. John Hartfield, c'était un illustrateur des années 30, allemand, qui faisait notamment tous ces photomontages où il critiquait Hitler. Je pense que si ils sont immédiatement reconnaissables, et si vous en voyez un, vous les verriez, vous les reconnaîtriez. Stian a écrit sa thèse sur John Hartfield. Et on retrouve en fait ce même travail, sauf que là où John Hartfield travaillait avec des ciseaux et de la colle, Stian travaille avec Photoshop. Et personne n'a, à ma connaissance, et à part Jean Lecointre en France, mais dans un tout autre genre, mais personne n'avait fait un réel travail avec Photoshop d'illustration pour les enfants, et avec une telle qualité, en fait, et avec une, c'est assez inouï, enfin inouï au sens propre du au sens le plus littéral du terme. Après, Véronique parlait du texte, puisque ce qui a, là, on commence, hein, si je ne m'abuse, hein, avec le troisième, à regarder un petit peu le texte maintenant qu'on s'est habitué un peu plus à l'image et à l'illustration. Vous connaissez peut-être un auteur qui s'appelle Lars Saabye Christensen, qui est publié pour ses romans adultes chez Jean-Claude Lattès. Il y a un roman pour enfants chez Thierry Magnier. Et il y a vraiment Stian, c'est pour Stian le grand auteur norvégien. Et vous allez vraiment retrouver, si vous regardez bien, si vous lisez bien, cette façon de regarder le monde, cette façon de parler de la nature, et en même temps cette vulnérabilité qu'il y a chez les personnages qu'on va retrouver chez Garman comme chez Stian, comme chez Lars. La différence étant que chez Lars, c'est un monde très cruel, alors que chez Stian, c'est un monde très où les adultes protègent toujours. On retrouve toujours, hein, cette thématique de la protection de l'enfant. Voilà.
Donc dans l'été de Garman, qui est donc le premier qui a été traduit en français, c'est Garman qui va rentrer à l'école pour la première fois, qui va rentrer à la grande école et qui a très peur d'aller à l'école et qui interroge autour de lui les adultes, à commencer par ses grand-tantes qui viennent passer l'été à la maison et qui va leur demander à chacune d'entre elles qu'est-ce qui leur fait le plus peur. Et donc, confrontation des peurs de l'enfant avec celles de l'adulte, avec cette très jolie formule et qui a dû poser des problèmes de traduction ou pas, je n'en sais rien, d'avoir des papillons dans le ventre.
Oui. Alors, avoir des papillons, tu as pas le...
Non, tu l'as pas.
Avoir des papillons, vous voyez, là, on voit des papillons. Donc le papillon dans cet album-là, c'est symbole évidemment de la transformation. Hein. C'est la chenille qui va sortir de son cocon et devenir un insecte volant. Le papillon, c'est Garman qui a peur de passer de la petite enfance de passer d'une certaine enfance à une autre, c'est-à-dire entrer dans le monde des grands, c'est-à-dire commencer à l'école. Le papillon, c'est aussi les grand-tantes qui sont arrivées à un stade ultime de leur vie et qui savent qu'elles vont mourir et qui ont peur de mourir et qui, elles aussi, vont se transformer. Et il y a dans les grand-tantes, demande à Garman, est-ce que tu as des, je vous traduis comme ça de mémoire, est-ce que tu as des papillons dans le ventre à l'idée d'entrer à l'école, d'entrer à la grande école? Et en fait, avoir des papillons dans le ventre, c'est une expression que vous avez dans toutes les langues germaniques. Donc en danois, en norvégien, en anglais, en allemand, et qui caractérise une peur, mais une peur qui est mêlée d'excitation. C'est-à-dire qu'on a on a peur, mais on a un peu hâte. C'est un peu le trac, si vous voulez. Et en général, quand vous traduisez un ouvrage, et que vous avez j'ai des papillons dans le ventre, vous supprimez et vous trouvez un équivalent qui variera en fonction du contexte littéraire et de la langue de l'auteur. Sauf que là, dans l'album, les papillons sont véritablement représentés, comme vous le voyez. Et vous avez même ici, vous voyez la phrase qui se termine par un papillon. Et donc là, je ne pouvais pas faire l'économie de cette phrase et simplement la supprimer. Il fallait la montrer. J'ai résolu le problème de deux manières. J'ai été aidé d'abord parce que Stian écrit après, Garman se demande comment font les papillons pour entrer dans le ventre de quelqu'un. Donc ça me laissait assez libre de conserver cette image-là. Et j'ai juste... Quand vous avez des images qui sont assez étranges et qu'il faut absolument conserver, soit parce qu'il s'agit d'un trait ethnologique, soit parce qu'il s'agit d'un trait que je vais appeler linguistique, donc soit un jeu de mots, soit une image qui est importante, comme on le voit ici, pour le reste de la narration, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de neutraliser l'effet. Il faut garder l'étrangeté, mais il faut essayer de la neutraliser quelque peu pour qu'elle devienne audible pour le lecteur d'arrivée, pour le français. Et donc j'ai rajouté l'adjectif noir. Donc tu as des papillons noirs dans le ventre, en pensant très, très, très précisément à la chanson de Serge Gainsbourg pour Michel Arnaud, ou pour ceux qui s'en souviennent aussi, qu'il a repris après avec Bijou. Bref, tout ça pour dire que les papillons noirs, en français, ont une réalité. Hein, c'est aussi... c'est avoir des idées noires, et puis les papillons noirs, c'est les papillons de nuit, donc c'est quelque chose de vous voyez, de sombre. Et là, j'apportais une réalité un peu plus préhensible pour les lecteurs français, en même temps que je gardais l'image norvégienne.
Autre auteur norvégien invité au Salon du Livre et qui lui aussi, on en a déjà un petit peu évoqué, qui est un auteur... Enfin, si on prend le temps d'en parler, c'est que c'est des auteurs qui éventuellement, parce qu'ils sont déjà venus au Salon de Paris, peuvent revenir en France. Donc Stagnolo vient relativement souvent, donc ne parle pas français, mais est très à l'aise. Erlend Loh ne parle pas français non plus, je crois.
Il ne veut pas le parler, mais il comprend très bien.
Et qui est donc l'auteur de la série actuelle des 4 Kurtes, qui a commencé avec Kurt et le poisson, et qui va être prolongé très bientôt, le mois prochain, par le 5e titre Kurtville, toujours à l'édition de La Joie de Lire. Et il y en a un 6e qui est déjà publié en Norvège.
Oui, sorti,
et Erlend Loh, avec une particularité que n'a pas forcément Stian Olle, qui est illustrateur, auteur-illustrateur de livres pour enfants et qui par ailleurs réalise beaucoup de couvertures de livres. Erlend Loh est un auteur pour adultes.
À la base, oui, Erlend est un auteur pour adultes. Je suis en train de réfléchir par où je vais commencer. Oui, Erlend est devenu très très vite un auteur... très connu avec le roman qui était paru aux éditions Gaïa dans la collection Taille Unique justement et qui s'appelait Naïf Super. Vous l'avez peut-être vu passer. Hein. C'est un roman qui a été traduit qui est sorti en 96 et qui a été traduit aujourd'hui, je pense, dans 25 pays, peut-être 26, peut-être 30. Et qui va, ce roman-là, Naïf Super, va vraiment apporter une rupture dans la littérature norvégienne des années 90. Naïf Super, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, le jour de son 25e anniversaire, est battu au croquet par son frère et, à cause de cela, voit sa vie s'effondrer. vous noterez le rapport de cause à effet qui est bien sûr évident. Et donc il décide de tout recommencer. Comme il le dit lui-même, il faut que je reparte de zéro en faisant des choses simples. Et donc des choses simples, c'est par exemple lancer un ballon toute la journée contre un mur. C'est par exemple jouer au frappe-bien. Je ne sais pas si vous connaissez frappe-bien. C'est un jouet pour les enfants dans lequel qui est une surface en bois percée de 3 trous, me semble-t-il, 3 ou 4 ou 5, avec des embouts. L'enfant a un maillet et il tape dessus. Tac, 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 tac. Ensuite, vous le retournez et vous rappuyez dessus. Tac, 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 tac. Et vous faites ça toute la journée. Et c'est donc ce que le personnage fait. Parallèlement, il lit un ouvrage sur le temps où il découvre que le temps, la Terre va, ou le Soleil, je ne sais plus, va exploser dans X milliards d'années. Et donc, ça le rassure un peu sur sa propre condition humaine. Cette digression pour vous montrer donc que vous avez un personnage qui n'a pas vraiment grandi, qui est resté un peu un enfant et qui a du mal à devenir adulte. Et dans toute son écriture, Erlund n'aura de cesse de présenter des personnages comme ça. C'est-à-dire des personnages qui sont restés un petit peu des enfants, des personnages qui sont ou des adultes qui n'ont pas réussi à grandir, ou alors il va, c'est le cas de par exemple dans Muléum, présenter des adolescents. Il ne rechigne pas du tout à avoir des adolescents comme personnages principaux. Les lecteurs français ne s'y sont pas trompés puisqu'il me semble que ce sont surtout les adolescents qui lisent Erlund. En tout cas, il y a eu plusieurs prix ici en France. Si je suis très honnête, et je le suis toujours, je pense qu'Erlund, son œuvre pour adultes, ne fera pas date. Et je pense, en revanche, qu'avec la série des Kurt, il est déjà entré dans l'histoire et que l'histoire de la littérature jeunesse, norvégienne en tout cas, mais peut-être aussi mondiale, ne pourra plus s'écrire sans Erlund. Est-ce que tu trouves que je dis...
commencer par le fait, et c'est quand même relativement rare dans la littérature de jeunesse, c'est que ce sont des personnages adultes qui sont présentés à des enfants, ce qui est relativement rare qu'un héros adulte soit le héros d'un roman jeunesse.
Non, l'illustrateur s'appelle Kim Hjortøy. Hjortøy s'écrivant... c'est marqué ? Bon, oui. C'est parfait. Et évidemment, l'illustration très particulière et très absurde de Kim va parfaitement et fait le succès, va parfaitement avec les livres sur Kurt et fait le succès des livres de et sur Kurt. Donc je le disais en amorce, Erlund a un rôle fondamental dans la littérature pour la jeunesse, en ce qu'il va apporter un brouillage des codes. Alors des codes tant comment je vais expliquer ça ? Des codes tant narratifs que des codes qui sont presque archétypiques. C'est-à-dire que dans un roman jeunesse, vous avez toujours des enfants, des adultes. Hein. Or là, au niveau de l'âge mental, au niveau de la réflexion, les adultes sont au même niveau que les enfants, voire les enfants sont plus intelligents que leurs parents. Comme dans Naïf Super, les adultes n'ont jamais grandi et sont restés de grands enfants éternels. D'éternels grands enfants, pardon. Et donc, on a un personnage comme Kurt qui est fondamentalement nigo, voire benet, voire niais. Ou son épouse, Annelies, qui est architecte et qui dessine des maisons et qui aime beaucoup les grandes maisons, et notamment les immeubles, qui est fondamentalement bonasse. Mais vraiment bonasse. Et on le voit dans Kurt à la tête en cocotte minute, à quel point elle peut être parfois, mais d'une stupidité confondante, où elle se fait avoir de bout en bout, et on se dit, en fin de compte, c'est bien fait pour elle. Il n'y a jamais, et plus on avance dans l'histoire des Kurdes, ça commence avec méchant Kurde, mais c'est très vrai avec Kurde à la tête en cocotte minute, qui à mon sens est vraiment le meilleur d'entre eux. Il n'y a jamais de personnage positif, qu'ils soient enfants ou adolescents. Ils ont toujours des travers, ils sont toujours retors, et ils sont toujours fondamentalement stupides. Hein, Véronique ?
Je trouve que t'es méchant avec eux.
Non, 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 mais c'est pas une. Quand je dis stupide, c'est pas une. Je le dis pas de façon péjorative.
C'est surtout une très très grande naïveté.
Oui, voilà, voilà, ouais.
La nuance. C'est plus positif, naïf, mais bon.
Oui, non, non, c'est vrai que quand je dis stupide, on a l'impression que c'est un reproche et que c'est négatif, alors que ça l'est pas quand je le dis.
Arrêtez. Jean-Baptiste.
Oui.
Excusez-moi, je vais faire le maître du temps. Il est midi et demi. Oui. Je vous propose en fait de faire la pause déjeuner.
Oui.
Et peut-être se retrouver cet après-midi, terminer de parler des.
Je dis juste un dernier mot sur.
On va juste terminer.
On va terminer sur Erlend Loh.
Sur Erlend.
Et puis ensuite on ira déjeuner. Oui.
On est bavard. Hein. Et oui. Et ce que je voulais dire sur Kurde, c'est ce qui est fondamental et c'est quelque chose qu'il a repris de la littérature de jeunesse norvégienne, c'est l'absurde. Voilà. L'absurde, à la fois dans l'écriture, à la fois dans les situations, dans sa façon de jouer avec les mots, de proposer des jeux de mots, c'est central. Et c'est quelque chose qui va être repris dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres pour la jeunesse, mais qui est aussi en phase pour ouvrir avec d'autres disciplines artistiques, avec le cinéma norvégien. Le cinéma norvégien que vous avez de la même manière en Finlande, avec les frères Kaurismäki dont je parlais tout à l'heure, vous avez toujours cette situation complètement absurde où les gens se répondent par des oui, des non, des je sais pas, avec des phrases minimales. Et tout ça, vous l'avez justement dans Kurde.
Et sur ce, on s'arrête pour le déjeuner. À tout à l'heure.
On se retrouve donc à 14h. Et bien sûr, vous avez aussi l'espace librairie qui est ouvert. Donc vous pouvez, en remontant, vous arrêter pour regarder les ouvrages. Merci beaucoup.